Bon, je vais les laisser se débrouiller tous les deux, puisque moi je vais faire la technique. J'avais annoncé, mais j'avais envie de le dire moi-même. Et laisser débrouiller Marika Helaki et Frédéric Debé, qui ont préparé cette émission Islam et spiritualité.
Eh bien voilà, chère Marika, tu es enfin arrivée, un vrai bonheur, moi je dois dire.
Je suis désolée, hein. C'est mon train qui s'est arrêté 15 minutes.
Mon Dieu. Donc on est là pour reparler de l'islam, mais en premier, moi je voulais y attaquer un petit peu avec l'actualité qui est un petit peu lourde, nous allons dire. D'abord, c'était pour savoir ce que tu pensais un petit peu de ce film dont on parle tant sur la toile, dans l'actualité, qui provoque un véritable remous. Sachant, je me permets juste de dire une chose, même si je ne suis pas musulman et que je suis catholique bon teint, tout ce genre d'attaque...
Personne n'est parfait. Hein.
Oui, voilà.
Tu pourrais peut-être commencer par la présenter ou lui demander qu'elle se présente.
Oui, mais ne t'inquiète pas.
Ah ouais, tu vas le faire. Je te vois tellement pressé.
Coupe le micro.
Je pense que Jean-Claude peut présenter, non ? Il connaît assez bien.
Non, vas-y, présente-toi. Présente-toi et mets-toi bien devant le micro, voilà.
D'accord. Donc, moi, j'ai une formation de journalisme tardivement. Comme il y a très peu de place dans le journalisme, je me suis spécialisée dans l'islamologie. Voilà. Comme en fait, j'ai une étude sur l'islam depuis l'âge de 14 ans, où je fais des recherches, en fait. Il se trouve que c'est très à la mode, hein. Donc ça tombait très bien. Je me suis dit que là, il était urgent que je sanctionne mes connaissances, puisque j'étais autodidacte. Et en effet, donc, je me suis inscrite dans un institut international de la pensée islamique qui est très très connu, qui est un institut de chercheurs, hein, où il en existe pas mal dans le monde. Et donc j'ai sanctionné une licence en islamologie et aussi en master 1 et je m'inscris à la Sorbonne en master 2. Voilà, c'est juste pour vous dire que je n'invente rien en fait.
Tu connais bien le sujet dont on va parler.
Voilà, et c'est surtout qu'aujourd'hui on ne peut pas se permettre de parler quand on n'a pas une connaissance bien assise des textes et de la théologie, des sciences islamiques. Puisque comme vous savez, c'était... Les sciences islamiques ont été des sciences qui ont révolutionné en fait quand même le monde, hein, en sachant qu'il y avait aussi la philosophie qui fait partie aussi des sciences, la grammaire, tout un tas de choses qui ont été en fait théorisées, on va dire, à partir du 8e, 9e siècle et 10e siècle. Et voilà, c'était l'âge d'or de l'islam. Et toutes les sciences ont été en fait théorisées à ce moment-là. Et donc, il est très important de revenir aux sources. Voilà, aux sources, c'est-à-dire aux textes fondateurs et surtout des trois premiers siècles. Après, on va dire que ce qui a été fait n'est pas reconnu dans la communauté musulmane. Et là, je pense qu'à fur et à mesure du débat et de la discussion, je vous en parlerai plus aisément. Voilà.
Alors, pour revenir, pour attaquer directement, que penses-tu de ce qui se passe à l'heure actuelle dans le monde musulman? Que penses-tu de ce film dont on a parlé, sachant, comme je voulais le dire, que même en tant que catholique, puisque nous-mêmes, nous avons eu droit à quelques films et à quelques pièces de théâtre un petit peu traumatisantes, nous allons dire, moi, je trouve ça personnellement choquant. Donc, je tiens à le dire, et je voudrais savoir quelle est l'opinion, un, de la musulmane et deux, de la scientifique musulmane.
Donc, là, je vais plutôt parler en tant que journaliste. Donc, il se trouve en fait que, disons qu'en fait, le film qui s'appelle L'innocence des musulmans a été un film qui a été produit et réalisé par un homme, Basile, je ne sais plus quoi exactement, je ne sais plus le nom, et qui est donc américain, qui se dit israélien aussi, et qui s'est associé dans la réalisation au pasteur, ce fameux pasteur Terry Jones, pardon, plus une autre personne qui a aidé à la promotion du film, hein, et c'est ce qui a fait que ça a été en ligne et surtout traduit donc en arabe, hein, et qui a fait le tour du web, et qu'en 24 heures, ça a mis le feu aux poudres. Hein. Et qu'on a vu malheureusement ce qui s'est passé en Libye et bien sûr en Égypte, ce qui à la limite ça ne nous étonne moins, puisque à chaque fois qu'il y a eu lors des caricatures de Mohamed, Mohamed Salah Ali Wassalam, là c'est la musulmane qui parle, il y a eu des manifestations un peu partout dans le monde et puis on a déjà vu des drapeaux brûlés. Donc là, sur cette affaire, je dirais que les trois ingrédients, en fait, qui est un Américain, un Israélo-Américain, un néo-conservateur, qui est donc le pasteur Terry Jones, plus un copte chrétien, donc égyptien, violemment islamophobe, il faut le rappeler. Ces trois ingrédients, en fait, ça trompe personne. On s'aperçoit bien que c'était une provocation volontaire afin d'enflammer les plus, je le dis, les plus violents d'entre les musulmans. Et ça, c'est important de le dire parce que, bon, voilà, quoi, il y a dans tous les êtres humains, il y a de la violence. Et il faut savoir aussi que, bon, le printemps arabe aussi a donné beaucoup de tensions et on s'aperçoit aussi qu'il y a eu beaucoup d'interventions qui se disent humanitaires et qui s'avèrent pas très humanitaires. Hein. Donc, ce qui m'importe, moi, dans cette histoire, c'est de savoir que les trois personnes, volontairement, attendaient cela.
Donc c'est ce qu'on appelle un véritable acte de guerre.
Psychologique, hein, et médiatique.
Alors, ce qui est fort intéressant, c'est que dans Le Parisien d'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui s'appelle Malek Chebel, qui est un spécialiste de l'islam, et qui dit une chose importante, c'est que le rapport à l'image est quelque chose d'assez nouveau chez les musulmans, et jusque-là, l'image était proscrite, prohibée. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose, c'est un nouveau rapport, je crois que ça fait qu'une vingtaine d'années, en fait, qu'il y a le rapport à l'image. Donc, c'était vraiment un acte volontaire de la part du réalisateur du film de vouloir provoquer ce qui est en train de se produire.
Oui, mais encore, à la limite, bon, la culture occidentale a toujours eu un rapport assez proche avec l'image. Donc, ne serait-ce que déjà la religion chrétienne avec les icônes, l'iconographie. Mais non, je pense qu'en fait, c'est pas... Je suis d'accord pour dire que, en effet, en islam, ce qui est très important, c'est qu'il y a un monothéisme absolu, d'ailleurs qui se rapproche du judaïsme, hein, et qui fait qu'on ne représente pas le prophète. Ça, c'est important. On ne représente pas Dieu, on ne représente pas le prophète. C'est un souci, en fait, de ne pas confondre l'image originelle, enfin, le personnage originel avec un personnage qu'on aurait finalement fabriqué de toutes pièces. Et qui fait que ça, apparemment, je parle en tant que musulman, ça corrompt l'origine de la personne. Voilà. Donc là, c'est... Et puis, bien sûr, c'est en contradiction totale avec le monothéisme absolu de l'islam qui est le tawhid, qui dit en fait qu'il n'y a aucune représentation, aucune image. Et voilà quoi. Mais ce qui compte aussi dans cette histoire, c'est que c'est intéressant. J'ai hier publié sur mon blog un article justement à propos de cette affaire. Et il se trouve que j'ai dévoilé en fait par rapport à Terry Jones, le pasteur Terry Jones, il a été arrêté. Le 6 août 2010 pour pédophilie, en fait, parce qu'il a partagé des images d'enfants, de pornographie d'enfants, et qu'il a donc partagé dans le logiciel LimeWare, c'est un logiciel apparemment américain. Et donc, suite à ça, il a été arrêté. Et ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, moi, j'avais publié cette annonce en 2010 parce qu'il avait déjà il avait menacé de brûler le Coran. Pour le 11 septembre. Donc, il se trouve que le 6 août 2010, il est arrêté et, par miracle, enfin, on ne sait pas ce qui s'est passé, le 9 août 2010, il décide de renoncer au projet, de brûler le Coran. Bon, c'est le monde, hein, le monde de cette période-là. Et on se demande, oui, là, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, moi, j'ai tout de suite été... sur le site où j'avais vu l'information, c'était sur NBC News. Et en fait, le signe est inaccessible. Par contre, le cache, comme Google ne supprime pas les caches, le cache indique bien l'arrestation de Terry Jones et de pour pornographie, en fait, sur enfant. Mais vous n'avez pas le droit d'accéder au site. Voilà ce qui est marqué. On peut y aller. Et j'ai donc publié une capture d'écran de l'information. Et heureusement, j'avais tout pris la, j'avais copié la brève à l'époque, donc je l'ai toujours. Et mon article a été censuré ce matin. Je m'aperçois qu'il a disparu et qu'il est erreur 404. Donc là, je me pose quand même de sérieuses questions.
On peut le comprendre.
Voilà.
On peut le comprendre. Quand Malek Chabelle dit que le film est un chapelet d'insultes, c'est vraiment...
Oui, parce qu'encore, ça aurait été un bon film. Bon, voilà quoi. On peut dire que
tu as vu,
ça a été volontaire de façon... Oui, oui, j'ai vu les images. J'ai vu 15 minutes, 16 minutes du film et ça m'a largement suffi. Oui, en effet, c'est vraiment une caricature grotesque de l'islam, enfin, en tout cas, des premiers moments de l'islam. Le film commence en Égypte, où apparemment des Coptes seraient donc agressés et tués par des musulmans, habillés avec, avec des habits de l'époque, enfin, comme on peut un peu les voir parfois chez les salafistes. Et des barbes fausses, ça se voit tout de suite. Et donc voilà, vraiment grotesque. Avec, et puis d'un coup, on se retrouve au temps du prophète, hein, Mohammed, salallahu alayhi wa sallam. Et là, on voit un prophète jeune, affalé, avec des femmes, où on voit une de ses femmes entre ses cuisses, qui elle, prend le prophète entre ses cuisses. Donc assez limite pornographique à ce moment-là. Et puis des décors de désert, hein, de Sahara, enfin de désert de l'Arabie, mais c'est des photos. Et on voit vraiment des photos à l'arrière-plan et même au sol. Les sols, c'est des photos aussi.
Donc c'est du grand n'importe quoi.
Donc c'est du grand n'importe quoi, mais c'était voulu, je pense. Avec plus de 57 apparemment acteurs. Ça a coûté, je crois, 5 millions, c'est ça ? Je ne sais plus l'information.
Oui, ça a coûté, oui.
5 millions de dollars, voilà. Pour un navet pareil. Enfin bon, on se demande voilà, pourquoi on a investi autant pour attaquer une religion, quoi. Et là, apparemment, et ses adeptes, hein, c'est volontairement toucher 1,5 milliard de personnes. Donc, voilà. Alors, la liberté d'expression, oui, moi, je veux bien. Moi, je suis pas d'accord avec ce qui s'est passé, c'est-à-dire en Libye, le lynchage du pauvre ambassadeur, de ce pauvre homme qui n'a rien demandé.
Qui était d'ailleurs pour la révolution libyenne,
oui,
qui avait
sûr.
Soutenu les gens. On peut très bien comprendre de la colère de gens, la violence.
Je pense pas, là. Je pense pas.
La violence vraiment... n'est jamais une solution. En revanche, choquer volontairement les gens... On sait très bien qu'une bombe, c'est une vraie bombe, hein, qui était jetée. Et d'ailleurs, Malek Chabelle, à qui on demande peut-on comparer ce qui se passe aujourd'hui avec l'affaire des caricatures de Mahomet en 2005, il dit que c'est tout à fait le même processus, mais cela risque d'être beaucoup plus important comme résultat.
Oui, mais apparemment, j'ai appris là, ce matin que l'aéroport de Benghazi a été fermé. Et que donc les manifestations continuent et que là, oui, ça s'enflamme, vraiment. Donc, on se pose vraiment la question à savoir si derrière tout ça, il n'y a pas une manipulation.
Bien entendu.
Parce que les gens qui ont apparemment eu des actes barbares sont quand même les personnes qui ont été soutenues et armées par l'OTAN, quoi.
Donc par les Américains.
Là, il y a un problème. Donc, je me demande, moi, et c'est ce que j'ai un peu toujours pensé, en me disant, c'est ça me fait penser au syndrome de Frankenstein, en fait. Vous savez ce que c'est le syndrome de Frankenstein ? Le Frankenstein, c'est le maître qui fabrique un monstre, hein, et qui se retourne contre lui. Et c'est exactement ce qui se passe. Hein. On a fabriqué des monstres, et je n'ai même pas peur de dire, et je crois vraiment qu'il y a c'est proche d'une certaine vérité que ces personnes-là ont été fabriquées. On a fabriqué des monstres. Hein. On l'a fabriqué volontairement. Et je crois bien que ça date d'avant World Trade Center. Puisque à l'époque, les djihadistes, qui étaient des vrais héros, du temps
Alors de l'Afghanistan et du commandant Massoud. Ce sont peut-être de vrais héros, si on entend.
Oui, tout à fait. Les talibans ont été quand même formés et armés
par les Américains.
Par les Américains contre l'URSS.
Contre les soviétiques.
À l'époque, l'URSS à l'époque. Ouais. Donc, il s'est trouvé qu'il y a eu une sorte de changement quand, un peu avant la mort du commandant Massoud. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, le commandant Massoud, qui lui était vraiment le bon musulman, qui faisait vraiment une guerre défensive pour protéger en fait sa terre, une vraie résistance. Et cette personne-là a été tuée par un journaliste qui s'est fait passer pour un journaliste, un homme qui s'est fait passer pour un journaliste. Et à la place, Ben Laden est né. Et on se retrouve au 11 septembre 2001 et les tours qui explosent. Donc là, il y a quand même un problème. On s'aperçoit vraiment que une guerre est déclarée et qu'en fait aujourd'hui, c'est vraiment, je pense qu'il y a un changement de paradigme.
Donc c'est quoi une guerre ? Une guerre de religion ? Une guerre contre les Américains, par exemple ? Une guerre
C'est des enjeux géopolitiques.
Bien entendu.
Et de richesses minières. Où on a l'impression qu'on est un peu à la course, que les richesses sont en train de...
D'accord. Alors, Malek Chebel le conclut sur la question qu'est-ce qui pourrait apaiser les choses ? Il faudrait des paroles fortes du pouvoir américain, notamment de la part des deux candidats, Barack Obama et Mitt Romney. Et également, il dit, les dignitaires des autres grandes religions peuvent aussi se montrer solidaires des musulmans et de leur peine qui est forte. Ce serait de nature à calmer le jeu et les choses. Qu'en penses-tu?
Je trouve que Malek Chebel, il est très édulcoré.
Oui.
Il a un islam édulcoré. Il ne reflète pas vraiment la réalité.
Ayant quoi qu'il ne reflète pas la réalité?
J'ai l'impression qu'il dénonce une chose sans la dénoncer. On ne sait pas trop ce qu'il dit, en fait. On ne sait pas trop où il se positionne. Je sais pas, ce que tu me dis, c'est qu'il demande à ce qu'il y ait des paroles fortes du côté des gouvernements.
Et du côté des autres religions.
Dignitaires religieux.
Dignitaires religieux. Ce qu'on peut très bien comprendre, juste un petit rappel, quand il y a eu la dernière tentation du Christ de Martin Scorsese, qui a été dénoncée par les autorités religieuses, il y a quand même eu une solidarité entre religions. Quand il y a eu la pièce de théâtre dont on parlait tout à l'heure avec Jean-Claude, au théâtre du Châtelet ou au théâtre de Paris contre le Christ, etc., qui était une pièce qui était une foutaise complète, il y a eu une véritable solidarité. Hein, c'est-à-dire qu'on comprenait. Donc, qu'est-ce que tu crois que la solidarité entre les religions monothéistes,
j'avais pas compris, excuse-moi. J'avais pas compris que c'était une solidarité entre les trois religions. Moi, je pensais que c'était
entre les trois grandes religions.
Je pensais que c'était entre les dignitaires religieux musulmans et les États.
Non.
Alors que bon, voilà, ça a toujours été.
Pas entre la religion juive, entre la religion catholique.
Oui, c'est important. Mais je pense que c'est vraiment une solidarité humaniste, hein, et on peut la retrouver aussi chez les athées. C'est-à-dire que là, il faut vraiment une solidarité universelle. Beaucoup plus que la religion, qu'entre les
D'accord.
religieux.
Il faut qu'on aille
vers la paix, quoi. Là, il y a un problème, un réel problème où on sent bien que la guerre est là, et elle est là depuis longtemps. Et elle est mondiale. Elle est mondiale. Écoutez, on ne voit pas combien il y a de pays aujourd'hui dans le monde qui sont en guerre, où nos intérêts sont engagés, nos propres intérêts, intérêts français, intérêts américains. Intérêt italien, intérêt. Tout le monde est engagé actuellement dans les guerres dans le monde. Donc on est bien en guerre mondiale. La seule différence, c'est qu'on n'a pas de bombes qui nous tombent dessus, c'est tout. Mais jusqu'à quand?
Donc, si je comprends bien, une religion, moi je me reporte à la définition latine du verbe religere, réunir. Donc non seulement ça ne réunit pas les gens, mais en plus. On arrive vraiment vers quelque chose, un combat permanent. Alors, lié à cela, et là on entre dans le sujet de l'islam, on dit que le catholicisme, par exemple, est une religion d'amour. Est-ce que l'islam est une religion d'amour?
Alors, l'islam, c'est différent. C'est différent du christianisme pour la simple raison que le contexte est différent. très différent. Il faut savoir que le Coran a été révélé en 23 ans. Okay ? Durant ces 23 ans, il y a 13 ans, certains versets ont été révélés à la Mecque. Donc, à la Mecque, c'était la préparation à la spiritualité, à l'amour, la description du paradis, de l'enfer, de l'Ihtihsan, c'est-à-dire de la... du bel agir, de la solidarité, de la fraternité. Tout ça a été préparé pendant 13 ans. Il faut savoir que durant ces 13 années, la religion grandissante, enfin surtout naissante plutôt, les premiers musulmans étaient persécutés. Il fallait qu'ils fuient, Ils fuient les Quraysh parce que leur plus grand ennemi étaient les notables et les tribus Quraysh de la Mecque. Ok, ça c'est très important. Le polythéisme, à l'origine, le prophète vient pour abolir le polythéisme dans cette région. Très important. Il se trouve que les notables n'en voulaient pas. Ne voulaient pas parce qu'en effet, leur pouvoir allait disparaître. Et donc il a fallu une partie, quand il y a eu la prédication. D'abord, la prédication a été secrète. Ça a été dans chaque maison intime, cachée, secrète.
Le bouche à oreille,
voilà. Une fois qu'il a eu sa révélation. Ensuite, la deuxième phase, c'était la prédication publique. Donc, le prophète, il était dans les marchés, en tout cas dans les marchés, les endroits publics, et là, il commençait à clamer. C'est ce qu'on dit, on parle de proclamer. Il a proclamé la religion, l'islam, comme nouvelle religion. Le premier verset qui est descendu, c'est l'ordre de lire. Iqra bismi rabbika. Iqalaq l'insan min alaq. C'est-à-dire, lis au nom de ton Seigneur qui t'a créé d'un accrochement. Donc, il faut savoir que la nation de Mohammed était ummi, c'est-à-dire que elle était orale. Elle avait une tradition orale. D'ailleurs, ils sont réputés pour la poésie. La poésie arabe, c'était vraiment ancré en eux. Et donc, ils avaient une capacité énorme à mémoriser et à retransmettre. Et en effet, le Coran a été appris par cœur, dans les cœurs. Et c'est justement aussi le but de l'islam, d'avoir choisi cette région-là. Parce que la langue arabe était au summum, c'était l'apothéose de la langue dans le monde, hein, à ce moment-là, de par la poésie. Et deuxième chose, c'était un peuple qui avait une grosse capacité de mémoriser. Donc qui pouvait mémoriser le Coran entier. Ça, c'est important de le savoir. Et c'est ce qui se passe. Encore aujourd'hui, il y a des gens qui mémorisent le Coran en entier. Une fois qu'il a clamé publiquement les premiers versets qu'il recevait, ils ont été persécutés. Les gens voulaient se défendre, puisqu'en plus, ce sont des guerriers, les Arabes. À l'époque, c'était des guerriers. Ils étaient en guerre incessante, sans arrêt. Ils n'avaient que 3 mois. Deux mois sacrés qui leur permettaient de faire la paix. Mais sinon, toute l'année, ils se battaient. Donc, l'islam arrive et les guerres, bien sûr, ne s'arrêtent pas. Donc, le contexte, c'était un contexte de guerriers. D'accord ? Mais le but étant d'apporter la paix dans le sens de salam, qui veut dire la paix avant tout. Ok ? Et la solidarité entre les tribus, et surtout l'unification de toutes les tribus, ça c'est important, sous la bannière de l'islam, parce que les tribus se faisaient la guerre les uns contre les autres, d'accord ? Et ils ont fini par devenir frères, et ça s'est étendu à d'autres régions, où là, en effet, la Syrie, plus tard, dans la conquête, ils étaient tous égaux par la religion, que ce soit par la couleur ou par l'origine. L'histoire en a été différente. Les Arabes n'ont pas, pratiquer réellement ce qui a été dit, puisqu'on s'aperçoit que la première dynastie, les Omeyyades, ont favorisé les Arabes. Ils ont été racistes envers les descendants d'esclaves, parce que le but aussi, c'est qu'il y avait, comme il y avait de l'esclavage, le but était aussi de affranchir les esclaves. On affranchissait un esclave dès qu'on avait péché. Voilà, par exemple. Donc, voilà. Alors, pour revenir, en fait, je me suis un peu éloignée du sujet, pour revenir à la prédication du prophète public, donc ils ont été persécutés. Il y a une petite partie qui est partie, qui s'est exilée, et qui a été donc en Éthiopie à l'époque. C'était un empereur chrétien. Ils ont été protégés là, et parce que ils pouvaient pas rester là où ils étaient, ils étaient vraiment en danger. Donc l'autre partie est restée à la Mecque. Les plus grands guerriers comme Omar, Abou Bakar et les autres compagnons du prophète, qui quand même étaient des personnes très fortes, très valeureuses, très courageuses, devaient normalement répliquer. Il leur a été interdit formellement de répliquer. Et cela pendant 13 ans. La guerre était interdite. Donc, le verset qui arrive 13 ans après, une fois qu'ils se sont exilés une deuxième fois pour Médine, de façon à créer la cité, l'État musulman, le verset descend et dit tuez-les partout où vous les trouvez, tuez-les. C'était une réponse après tant d'années de persécution où là on en était à vouloir se défendre. Donc la guerre, le djihad tel qu'il a été conventionnellement par la suite expliqué, c'était d'abord le djihad fi sabilillah, c'est-à-dire le combat contre soi-même. Vu les agressions qu'il subissait, il fallait se contrôler, ne pas répondre. Le prophète recevait des crachats, des pierres, des épines. On a essayé de le tuer, mais même après ça, il était interdit formellement de répondre. Donc là, on était vraiment dans l'amour. On était vraiment dans l'abnégation de Jésus. OK? Et vient, en effet, là où on se retrouve dans une autre partie de l'islam, qui est la deuxième partie, qui était les 10 ans, les 10 dernières années, où là, on est dans la cité. Et la cité, là, telle que l'État musulman des origines existait, c'est les affaires entre les hommes. Et en effet, quand on voit le Coran, il est constitué de versets qui ont été écrits à Médine et des versets qui ont été révélés à la Mecque. Tout est mélangé. Donc aujourd'hui, si on n'a pas une connaissance des circonstances de révélation, on ne saura pas à quel moment ce verset est descendu. Mais le verset descendu au fur et à mesure des événements, comme réponse à un événement qui s'est trouvé. Les versets qui ont été révélés à la Mecque sont intemporels. Et on est en effet sur l'amour, la fraternité, la solidarité, tout ce qui peut être une religion en fait. Où il n'y a pas la guerre, quoi. Et l'autre côté, l'autre partie qui est la partie de Médine, là, on est dans les affaires des hommes. Et là, en effet, il y a la guerre, la réponse aux attaques, toutes les légiférations qui ont été faites sur le mariage, le statut personnel, sur l'héritage, tout a été constitué à ce moment-là. Voilà. Donc le problème aujourd'hui, c'est de faire la différence entre ces deux parties révélées.
Alors, juste une chose, on en parlait l'autre jour quand on préparait l'émission. Dans la religion catholique, qui est la religion que je connais le mieux pour des raisons évidentes, les gens qui nous enseignent, sont les prêtres, les curés, etc., ont de longues études, nous allons dire. Si j'ai bien compris, donc faudra me dire, hein, si j'ai pas bien compris, les imams, enfin beaucoup d'imams sont des gens qui n'ont pas eu cette culture longue, cette étude longue. Ils ne font que reproduire la parole de Dieu qu'ils apprennent peut-être par cœur, sans pour autant entrer dans le détail comme tu l'as fait. C'est-à-dire, est-ce qu'ils savent bien différencier les versets dont tu parlais et les autres? Ma question est, est-ce que quand on apprend quelque chose par cœur et qu'on ne maîtrise pas complètement, est-ce qu'on peut bien porter la parole de Dieu et est-ce que justement cela ne provoque pas plein de choses?
Bon, déjà, il est important de dire que en islam, c'est très différent du christianisme parce qu'il n'y a pas de clergé. Le clergé n'existe pas. Donc tout être humain en islam est responsable, mukallim. Mukallaf, pardon, qu'on dit. Donc ça veut dire qu'en fait, il est le calife sur terre, individuellement. Okay, donc il prend sa propre responsabilité. Et son rapport à Dieu, il est direct. Personne n'a à lui montrer le chemin. Et ce qui est important en islam, c'est justement, comme il a été révélé dans le premier verset, « Lis au nom de ton Seigneur qui t'a créé de rien et d'un accrochement », l'obligation du musulman, c'est la connaissance. C'est à lui de chercher tout seul. Et l'imam, le rôle de l'imam n'a pas le même rôle qu'un prêtre ou un rabbin. Le rôle de l'imam, il est de guider la prière. Tout simplement. Comme n'importe qui peut guider la prière, ce qui différencie deux êtres humains, c'est sa connaissance. C'est-à-dire que celui qui connaît un certain nombre de versets, plus que l'autre, est en droit de diriger la prière et d'être imam. Voilà, donc ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'en islam, il y a des savants. Voilà, c'est des savants. Bon, c'est des gens qui ont pris l'initiative de faire une recherche poussée, de ne faire que ça, et qui du coup ont un savoir. Donc ils deviennent reconnus ou pas reconnus. Ils laissent des livres, ils laissent des écrits, ils font des colloques, des séminaires, ils renseignent les gens. Et en effet, c'est ça c'est ce statut de savant qui est très important en islam et qui est supérieur au commun des mortels, qui eux justement font les cinq prières de l'islam, peuvent guider la prière, etc. Ils sont comme puisque le fait d'accéder à la connaissance accède automatiquement à Dieu dans le sens. Donc comme le patrimoine islamique est très 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 riche. Très 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 riche. Il y a surtout des volumes et des volumes et des volumes d'écrits dès le début de l'islam, on va dire à partir du 8e siècle, 8e, 9e, 10e, 11, 12, 13. Il y a eu des volumes et des volumes et des volumes juste seulement sur une interprétation d'une terminologie du Coran. Donc vous imaginez ce qui a pu être écrit jusqu'à nos jours.
Quelle belle bibliothèque, hein. Quelle oui. Belle bibliothèque. Donc, arrête de me couper mon micro, tu m'énerves mon pauvre.
Oui, je voulais te faire remarquer, il y en a un qui tape avec un genou.
Ah, je ne tape pas avec un genou, je tape avec autre chose, par deux également, voilà, je vais te le dire.
Il me manque un micro. Hein. Il n'y a pas beaucoup de questions hein, pour l'instant. Hein.
Non, c'est pas vrai.
Ça suit.
On papote.
Est-ce que tu pourrais, c'est vraiment gênant de ne pas avoir un autre micro.
On n'entend pas bien
là, ouais. Si, c'est parfait, le son est ok.
D'accord.
Mais est-ce que tu pourrais être un peu plus didactique? C'est-à-dire tu parles, par exemple, moi j'ai entendu dire, tu peux me donner un micro parce que...
Je te le prête.
Merci, non, ce sont le mien. Oui, il n'y a rien de plus frustrant pour un animateur, peut-être pas parler, de se taire, et j'ai fait un gros effort, et puis surtout, oui, moi j'ai entendu dire par exemple qu'il n'y avait aucune trace du passage de Mohammed à Médine.
Ouais.
Tu vois, je voudrais aller vers des...
Entendu.
Voilà, oui, je voudrais...
Non, mais
c'est vrai ou pas, parce que
c'est justement
on le disait, excuse-moi, on le disait avant que tu arrives tout à l'heure, il y a une telle haine en ce moment de l'islam qui est sûrement la religion à démolir pour des raisons qui regardent chacun. Moi je me pose pas de questions à ce rythme-là, je me demande simplement mais pourquoi il y a cette haine depuis, allez, on va dire depuis longtemps, mais depuis une dizaine d'années, depuis 2001, depuis septembre 2001.
C'est pas nouveau. Le Moyen Âge, il y a une haine.
Non, mais
le grand Satan.
Moi, je vivais pas au Moyen Âge.
Je pense que non, tout vient de là, parce que dans les amnésies collectives, hein, l'islam est le grand Satan. Le prophète Mohammed est le faux prophète qui est en fait écrit dans leur livre, l'Apocalypse de Jean. Et l'amnésie, enfin les consciences collectives, elles ont gardé ça. C'est comme le voile, c'est pareil. Mmh. Pourquoi le voile est décrié en France, enfin spécialement en France, je dirais, c'est parce que justement dans l'amnésie, dans les consciences collectives, ça renvoie à une bataille contre l'Église, à une émancipation féminine.
Mais je t'interromps, Marika, de la violence, on en retrouve dans le Coran, dans les sourates, on en retrouve dans les hadiths, on en retrouve dans la Torah, on en retrouve
partout, dans
l'Ancien Testament. J'ai étudié ça de près depuis plusieurs années. La violence, on la retrouve partout. Alors pourquoi l'islam en ce moment, d'une façon beaucoup plus violente ?
Qui répond d'une façon violente, tu veux dire ? C'est pas pareil. Qui réagit ?
Est-ce que l'islam est une religion violente ?
Non. L'islam, c'est pas une religion violente. C'est pas une religion violente quand on comprend les textes. Parce qu'en fait, il faut dire, c'est Jacques Baer qui disait ça. C'était intéressant ce qu'il disait. Jacques Baer, c'est un très grand savant du Collège de France, qui est français, hein, Collège de France, catholique, hein, qui s'est pas converti à l'islam, mais qui a fait un énorme travail sur l'islam. Et qui a fait une exégèse d'ailleurs du Coran, qui a eu le sceau justement de El Azhar, comme quoi c'est une très très bonne traduction. Et lui, c'est un sémiotologue, donc en fait un linguiste aussi. Il disait que le Coran était écrit en paroxysme, c'est-à-dire qu'en fait il y a une ligne qui va être par exemple l'enfer. Et la ligne d'après, ça parlera du paradis. Il y a une ligne qui va parler d'amour et une ligne qui va parler de guerre. Puisque tout est mélangé. Enfin, c'est pas dans un ordre chronologique de comment ça s'est passé. Si ça avait été chronologique, on aurait très bien compris qu'il y a en fait toute la partie spirituelle et la partie cité des hommes. Okay ? Donc, et il se trouve que le fait qu'une personne dont le cœur est malade va voir la guerre. La personne dont le cœur est bon ou sage verra la paix.
Il y a un paquet de malades alors.
Il y a un paquet de malades. Donc de toute façon, c'est l'interprétation de tous les textes. Que ce soit même l'interprétation de la laïcité, aujourd'hui, on tombe sur des fanatiques.
Monsieur Frédéric, est-ce que je posais une question, question à Marika qui connaît bien son sujet. Hein. C'est assez rare d'ailleurs pour une femme de parler de l'islam comme elle en parle. J'espère qu'on l'entend bien là, même si c'est un peu éloigné.
Moi, je suis un petit peu...
Mais qui a rédigé le Coran ? Qui a écrit le Coran ? Mohamed était illettré, il n'a jamais écrit.
Ça, c'est ce qu'on dit.
Oui.
Alors, mais
c'est ça les questions.
Tu m'avais posé une question
Ouais.
tout à l'heure, Jean-Claude, c'était de dire que si le prophète a existé, le prophète n'avait pas existé, c'est ce que tu me disais. Tu avais entendu que le prophète n'avait pas existé. Non, il y a des preuves, ça y est, irréfutables, que le prophète a existé. L'histoire en témoigne et de grands... orientaliste, français, anglais, allemand, de toute nationalité ont reconnu l'existence du prophète, ne serait-ce que par la Sahifa, c'est-à-dire la première constitution de Médine, la charte de Médine, justement, où là, on se trouve face à une toute première constitution humaine, dans le sens où ça n'existait pas avant. Telle que la charte des droits de l'homme. Aujourd'hui, la charte des droits de l'homme, elle est moderne, elle a été détaillée, etc. Mais pour l'époque, c'était une révolution. La charte de Méline. Tu peux regarder sur Internet. Vas-y, va chercher la charte de Méline. Wikipédia. Tapez Wikipédia, vous serez étonné parce que les gens ne connaissent pas ça. Ne le savent pas.
Je fais toujours très attention à Wikipédia.
Il n'y a que les néophytes. Bah, c'est pas grave, tu as qu'à aller là où tu as tes sources.
Je t'entends. Si j'entends
mais je sais de quoi je parle, je suis sûr de ce que je dis. Je suis sûr de ce que je dis.
Non, on a quelqu'un de bien là.
La constitution de Médine était une constitution qui permettait d'unifier les juifs, les chrétiens, les musulmans.
Une bonne idée, en
fait. Les polythéistes étaient tous citoyens à Médine. Et chaque tribu devait, qui était réunie alliée, en fait, devait défendre en cas d'attaque étrangère. C'est-à-dire que si un étranger attaquait une tribu juive,
la tribu musulmane et la tribu chrétienne tombaient sur le paletot de l'attaquant.
D'accord. Si quelqu'un était mort par accident, il fallait payer le prix du sang, l'indemnité pécuniaire, la diya, qu'on appelle ça en arabe, la diya. Le musulman devait payer pour le juif, par exemple, si c'était un de sa tribu qui avait intenté à la vie ou à la famille de d'une famille chrétienne ou juive.
Donc il y avait des règles.
Oui, mais là, elles sont là. Il y a l'article 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hein. Elles existent. Elles sont là. C'est même la plus ancienne. Les plus anciens écrits. Du prophète, de la main du prophète.
Alors pourquoi
c'est pas que la main du prophète, non.
Pourquoi
le prophète a écrit
dessus.
Donc pour revenir, attends, juste, je voudrais finir, parce que sinon on va l'oublier. Le prophète, on dit qu'il ne savait pas lire. Il y a, en effet, cette.
Ni écrire,
oui, mais il était oummi, on appelle ça oummi, puisque, comme je vous disais, la nation arabe, excusez-moi. Était oumi, c'est-à-dire illettré. Donc par opposition, on disait les gens du livre. Les gens du livre, qui sont-ils? Ce sont les chrétiens et les juifs. Parce qu'ils avaient déjà un livre, venant du même Dieu. Et parce que chez eux, il y avait des gens qui étaient des érudits. Et chez les chrétiens surtout, chez les moines.
D'accord.
À l'époque. Et qui étaient en Syrie. En Syrie, à ce moment-là, qui étaient très proches quand même, les Syriaques, qui étaient très proches de l'Arabie. Donc ça. Et la deuxième chose, hein, c'est que le prophète, s'il ne savait pas lire à l'avènement de l'islam, il a appris à lire juste après, à 40 ans donc, l'ordre de lire. Le premier verset révélé était l'ordre de lire. Donc tout le monde a commencé. Il y avait 25 personnes qui savaient lire. On a recensé 25 personnes qui étaient des scripts en fait et qui avaient une connaissance, qui savaient écrire, qui étaient des érudits.
Quelles sont tes sources, Marika?
Les sources, mais c'est des sources académiques. Académiques. Donc ça, je suis sûre de ce que je dis. Donc Montgomery Watt, par exemple, William Montgomery Watt. Ignaz Goldziher, qui est allemand, hongrois. William Montgomery Watt, il est écossais. Il est d'ailleurs épiscopal, de l'école épiscopale, chrétienne épiscopale. Donc, dans le prophète à Médine et le prophète à la Mecque, on peut retrouver cela. Tout de suite, dès qu'un, parce que l'ordre était de donner justement d'apprendre le Coran et d'apprendre à lire et à écrire. D'ailleurs, par la suite même, quand les califes arrivaient à avoir faisaient des razzias. Il faut savoir que les razzias c'était comme ça, hein. C'était comme ça partout. Partout il y avait des razzias. Partout, c'était normal, c'est
même
d'antan.
Donc,
l'erreur qu'on fait. C'est qu'on reporte quelque chose du passé comme quelque chose de moderne. Et quand on reproche aux musulmans de revenir dans le passé, d'être, comme on appelle ça, réac, en fait, de vouloir, comme ça, avoir un espèce de temps mythique inexistant, quand on le reproche à ces personnes-là, on fait de même. Puisque quand on critique les musulmans et l'islam, on critique l'islam avec ses razzias. On critique avec... le fait, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ça c'est encore aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui on ne fait pas des razzias. Vous connaissez des pays musulmans faire des razzias aujourd'hui? Dites-moi, trouvez-moi un pays musulman faire des razzias. Non. Alors pourquoi on revient? On renvoie toujours au 7e siècle, de la même manière qu'on reproche aux musulmans de vouloir retourner au 7e siècle. Ça, c'est la question que je me pose. Hein.
Alors moi, une autre question. Sauf erreur, donc le Coran, c'est vers le 8e siècle. Ça veut dire que vous êtes en quelle année chez les musulmans en ce moment?
Alors, c'est 1400 et quelques. Donc, c'est un peu plus de 14 siècles.
Alors, dirais-je une bêtise? 1453. Dirais-je une bêtise? N'hésite pas à me réprimander si je pense que vous êtes au Moyen-Âge par rapport à nous. Sachant que au Moyen-Âge, chez nous, c'était pas terrible, hein. Il faut quand même se rappeler.
Pas d'accord.
Il y avait des choses très bien. De quoi? Vous n'êtes pas d'accord?
Non, vous me frustrez.
Mais vous êtes un hérétique, Jean-Claude Carzon.
Pas du tout.
Mais donc, je vais vous clouer à la porte de la grange.
On va dire, mais je vais te rejoindre. Alors, juste sur une chose.
Marika, d'accord. Les lois actuelles en France, elles viennent du Moyen-Âge. Non, garde ton micro, tant pis, je m'en passerai. Ça vient du Moyen-Âge. Le Moyen-Âge a été bousillé par les historiens. Il s'est passé des choses extraordinairement belles au Moyen-Âge.
C'est vrai.
Et on est en train, c'est toujours ce que les merdias nous apprennent, l'histoire telle qu'elle nous est apprise, on nous trompe, on nous raconte des conneries. Point. Le Moyen-Âge en France.
Bon, au Moyen-Âge, ce qui était beau au Moyen-Âge, c'est les bâtisseurs de cathédrales.
Par exemple.
Ah, tu vois.
Ouais, donc, non, il y avait des bonnes choses. Mais bon.
Parce que j'ai des questions là.
C'est au niveau religieux qu'il veut parler. Il veut parler au niveau religieux. C'était le Moyen-Âge.
J'aimerais savoir, par exemple, cette histoire de l'ange Gabriel, est-ce qu'il est réellement apparu à Mohamed? Moi, je dis pas Mohamed, je dis Mohamed. Pardon.
C'est bien, c'est un respect. On commence déjà par là, parce que quand on dit Mohamed, Mahomet.
Moi, je dis Mohamed.
C'est quand même incroyable que ce soit la France. Hein. C'est le seul pays au monde qui dit Mahomet. Les Anglais disent, les Britanniques disent Muhammad.
Mais il y a un manque de culture et de connaissances aussi.
Non, ils le savent.
Je ne pense pas, Marika.
Non, c'est volontairement. Les orientalistes à l'époque, c'était des détracteurs. Certains. Moi, il y a certains qui ont fait un bon travail, d'autres qui étaient vraiment...
Ce que j'aimerais savoir, c'est quels sont les ressentis...
L'obscurité. Mahomet veut dire l'obscurité.
Alors que Mohamed...
veut dire le louer. Le bien...
Bon, l'islam est arrivé en troisième position, d'après les...
Chronologiquement, la dernière...
Voilà, il y a eu les Mésopotamies, enfin, mais ce serait toute une longue émission à faire. Je voudrais savoir quelles sont les ressemblances et quelles sont les différences entre ces trois religions monothéistes.
Bon, alors là,
c'est un gros morceau. Si tu veux récupérer un peu, il y a de la musique, on peut passer de la musique.
C'est de l'anthropologie. J'ai fait un peu d'anthropologie, mais pas beaucoup. Donc enfin, est-ce que je peux dire une différence? Bon, moi je dis toujours, mais bon, ça c'est un peu mon interprétation que j'ai pu voir un peu à droite et à gauche et lire un peu à droite et à gauche. Je dirais que... Enfin, je reprendrai plutôt James Fraser, qui est un anthropologue des religions, et qui dit que l'humanité est passée par plusieurs stades. Donc, alors, je ne sais pas si je vais arriver à redire ça aussi bien que lui, il l'écrit. Ça veut dire qu'en fait, le début de l'humanité, on a la religion du totem. Donc, vous voyez, les Aztèques... toutes ces civilisations qui ont disparu, ils avaient des totems. Et les totems, c'était vraiment pour les protéger. Les protéger de quoi? De la nature. Et c'était élevé, c'était des monuments élevés à la gloire des dieux. Et pour se protéger aussi. Donc là, on est vraiment dans un truc un peu balbutiement de la religion. Il n'y avait pas encore la religion telle qu'on la connaissait par la suite, mais il y avait déjà quelque chose comme ça, mais qui était... Parce que l'homme avait peur des tremblements de terre, de la nature.
Que le ciel lui tombe sur la tête, autant des devoirs.
Donc il y avait des sacrifices humains aussi. Vous savez, des sacrifices humains, simplement pour pouvoir calmer la colère des dieux. Donc on tuait quand même des vierges.
Donc avant l'apparition de Dieu, en tant que personne unique, il y a eu des dieux.
Disons qu'il y a... Non, il y a tout... Je parle de James Fraser et ensuite on parle de la réalité de ce que moi je pense. James Fraser, donc, il dit qu'il y a eu le totem, donc l'étape du totem. Ensuite, on évolue déjà un peu au-dessus du totem, on arrive au tabou. Le tabou. Donc c'est pour ça qu'on dit totem et tabou. Le tabou, c'était une sorte de religion, mais on expliquait quelque chose. Il fallait pas enfreindre la communauté, enfin en tout cas les règles de la communauté, il fallait pas enfreindre. Et quand on transgressait une règle, on était banni et on pouvait même plus vous approcher, comme si vous étiez l'épidémie même, qu'on allait attraper la chose. On n'en parle pas, donc c'est tabou. Ensuite, on évolue à la loi avec le monothéisme de Moïse. La loi. Ça y est, on est dans la loi. Des vraies lois. Tu ne tueras point, tu ne voleras pas, tu ne sculpteras pas
les idoles, etc. Ouais.
Le monothéisme, ouais. Le plus pur. Et ensuite, on évolue avec le christianisme, où l'humain évolue, et il évolue dans le sens de l'abnégation,
du partage, du don de soi,
de l'abolition de la loi. Mm-hmm. Il n'abolit pas, en fait, en quelque sorte. Hein. Mm. Il raffermit la loi, mais il enlève certaines lois qui étaient lourdes. Quoi. Mm.
Mais le christianisme entérine les commandements de Moïse.
Ce qui est important, Jésus, il arrive. Justement, tu me demandais qu'est-ce qu'il a apporté dans chaque religion. Mm. Jésus, il apporte une chose. Il a dit d'ailleurs. Quand il rentre dans le temple, dans les temples, et qu'il voit les pharisiens avec leur livre de loi, avec leur tablette de loi, il casse tout dans le temple. Et il leur dit quoi ? Il leur dit, vous êtes tellement attachés à vos lois que vous en avez oublié votre cœur. Donc là, on est en plein dans le gospel. Dans le sens vraiment de l'amour. Parce que on peut être religieux, mais si le cœur n'est pas là, à quoi ça sert ? Au contraire, c'est totalement corrompu. On peut devenir des monstres.
Mélane pose une question, une question à Marika sur le prophète. Il est dit qu'il s'est marié avec une gamine. En fait, il y aurait une erreur dans les calculs des dates.
Bravo.
Est-ce que tu es d'accord ? En fait, elle était beaucoup plus âgée, c'est-à-dire elle avait
19
bien
ans.
Plus que 9 ans.
19 ans, elle avait, en réalité.
C'est vrai ou faux, donc ?
Oui, c'est vrai.
C'est vrai.
Et c'est une information qui est quand même assez nouvelle, on va dire, qui existait déjà chez les savants musulmans. Hein. Je ne sais plus quel savant déjà de l'époque quand je dis de l'époque, c'est-à-dire déjà 11e, 12e siècle, avait déjà fait quelque chose au niveau de ces calculs-là. Qui avait trouvé l'erreur, hein. On avait déjà écrit, mais c'était pas très connu. Donc aujourd'hui, maintenant, on peut être plus au courant. C'est facile de retrouver le fait qu'elle avait 19 ans. C'était une histoire de calcul de date, parce qu'on disait.
Mais qui a donné cette fausse information ?
Ça, c'est pas une fausse information. C'est une
fausse information.
C'est une interprétation.
Mais c'est quand même une version qui est restée très 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 longtemps en place.
C'est plutôt une version qui a été reprise de façon à pouvoir discréditer.
On peut parler d'erreur de traduction, erreur de traduction volontaire.
Non, c'est comme j'ai expliqué ça la dernière fois, je crois que c'était avec toi.
Oui, mais attends,
Frédéric,
oui.
Les numéraires.
Oui.
Quand à chaque fois qu'il y a un numéraire, parfois on dit, on va dire 70 hasanat, 77 vierges, 70, tous ces termes, ces numéraires, ça veut dire beaucoup. C'est pas le terme exact. Bon, je peux pas vous parler, je reviendrai dans une autre émission.
On en parlera parce que j'aimerais que tu parles du voile, de plein de sujets.
Pour faire vraiment l'histoire de Aïcha, parce que j'ai pas tous les documents ici, il faudrait que je vous explique.
Oui, mais c'est une première émission.
Calcul, mais en effet, cette dame a bien dit, elle avait 19 ans, d'après les calculs.
Est-ce qu'une respiration musicale, ça te plairait ? À moins que Frédéric ait quelque chose à dire.
Dans la deuxième partie.
Alors, tu as apporté plusieurs musiques. J'ai Ali Farka Touré.
Très bien.
J'ai Maluna, c'est le générique. Tu peux nous parler de Maluna quelques instants, de ton choix musical, parce que c'est aussi important qu'il n'y ait pas tout le temps de la parole qui est de la musique, mais que l'on comprenne pourquoi ce choix musical de ta part, Marika.
Donc, Maluma, parce que d'abord, mes enfants adorent. Et que unanimement ils ont choisi Maluma pour le générique. Et aussi parce que c'est une femme mauritanienne qui est une grande ambassadrice féminine mauritanienne, donc de l'islam aussi puisqu'elle est musulmane. Et c'était la principale opposante au pouvoir dictatorial, je me souviens plus du nom, en Mauritanie. Oh. Donc, elle a presque mis à genoux le dictateur.
Je profite
donc,
de ce que tu viens de dire pour te demander. Pardonne-moi, parce que tu sais, les questions, quand elles arrivent, si on les pose pas tout de suite, elles vont disparaître, on va les oublier. Comment se fait-il qu'il y ait aussi peu de femmes qui prennent la parole et qui parlent de l'islam ?
C'est parce qu'on leur laisse pas la place.
Qui ne leur laisse pas la place ?
Tout le monde.
Mais sauf ici.
Sauf ici, oui.
D'accord.
Non, mais
peut-être que ça sera une...
À d'autres endroits, j'ai eu la parole.
Oui, oui.
C'est
oui.
pas le seul
oui,
endroit
oui.
où j'ai eu la parole.
Mais... Ça va être une plateforme, ici.
Hum.
On ne leur laisse pas le,
mais qui,
la
qui,
place.
Mais qui c'est, on ? Qui, on ? Les hommes ?
Hein ? Les hommes, oui, les hommes. Les hommes, bien sûr. C'est toujours les hommes. Non, non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de savants hommes et que même dans l'histoire du patrimoine musulman, on a occulté les femmes. Les femmes, elles étaient très, 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 très bien, comment dire, elles avaient un statut que l'Occident pouvait leur envier. Hein,
mais c'est pas spécial,
siècle.
C'est pas spécial à l'islam, on le retrouve.
Dans
les deux autres religions,
siècle.
Les femmes n'ont pas la parole, ou si peu.
Pardon ?
J'ai dit que dans les autres religions, les deux autres religions monothéistes, les femmes ont très peu la
oui,
parole.
Dans l'islam, les femmes ont la parole. Ça, c'est une chose qui est une réalité. Comme je disais là aussi la dernière fois, à quelqu'un, regardez autour de vous, s'il vous plaît. Regardez autour de vous. Dites-moi, si vous connaissez une musulmane soumise, trouvez-moi une musulmane soumise autour de vous. Une fille musulmane. Qui dit amen à tout, qui l'espèce de comment on appelle ça le fantasme qu'on a sur la musulmane, je sais pas où elle est cette ce
dans la cuisine ou en train de s'occuper des enfants.
Tu en connais?
Moi j'en connais.
J'en connais
oui qui restent à la maison.
Oui, bah, chez les Françaises aussi, il y a des femmes qui restent à
mais
la maison.
Mais il y a aussi, exactement, la réponse, elle est
et
là.
Elle est même pas religieuse, elle est athée, hein, cette femme qui reste là. À la maison. Moi, je connais beaucoup de femmes françaises, qui sont athées, qui, quand elles ont une carrière, et qu'elles doivent partir pour leur travail à l'étranger, il n'y a pas beaucoup de maris qui les suivent. Par contre, le contraire, leur est presque imposé.
Bien, c'est pour en revenir à la musique.
Oui.
Alors, j'ai l'Orchestre National
oui.
de Barbès.
De Barbès, oui.
Ça te convient ?
Oui, j'aime beaucoup.
Et puis comme ça, on va aller boire un thé à la menthe ?
Très bien.
Que j'ai pas encore fait, mais que je vais faire.
Ça dure 8 minutes, là.
D'accord, mais il n'y aura pas 8 minutes. Hein.
Non,
et puis je vais en profiter. Merci, Marika. Bien. Je vais en profiter pour demander à celles et ceux qui nous suivent et qui sont un petit peu plus nombreux que mardi dernier, tant mieux. J'espère que ça ira en augmentant. Soit de nous poser des questions via l'adresse... étoileducœur@gmail.com sinon en allant sur la page Facebook, ma page Facebook Jean-Claude Carton. Voilà, nous attendons vos questions, un petit peu de la musique maintenant.
Merci à ceux qui nous suivent d'être encore là, c'est vraiment gentil. Merci à ceux qui nous découvrent de nous écouter encore pendant quelques minutes. Vous écoutez une nouvelle web radio qui a pour nom Radio Étoile du Cœur, c'est sur le net. Ce n'est pas de la musique, même si vous écoutez de la musique actuellement, elle est là pour illustrer la thématique de cette émission. Alors pour l'instant, il n'y a pas de grille de programme, ça va viendre, comme dit l'offre. Il y a déjà plusieurs animateurs qui sont en place et qui vont progressivement vous faire découvrir leur passion, leur talent, leurs connaissances. Alors Marika, j'ai quelques réactions. Manuel, si tu veux bien reprendre le micro et le casque, voilà.
Bonjour Manuel.
Bien,
enfin, si bonjour Manuel. Mais
c'est, non, c'est un garçon. C'est un garçon. Ah. C'est un garçon. Mais oui, on n'entend plus rien. On est en direct là. On dit jamais ça. Après, c'est le mec qui fait la technique qui va se faire engueuler. Carton, c'est pas la technique.
J'avais pas le casque.
Bon. Oui, alors, à propos de la liberté de la femme musulmane, Manuel te dit qu'il faudrait qu'elle aille faire un tour en Afghanistan.
Mais je lui répondrai à Emmanuel, mais l'Afghanistan, c'est pas le pays majoritaire musulman en islam, quoi. Il y a c'est un pays, enfin, il y a 56 pays musulmans dans le monde. Enfin, arabes. Je dis arabes parce que si on rajoute les arabo-musulmans, il faut rajouter l'Indonésie, le Pakistan, enfin, une partie de l'Inde. Enfin, il y a plus d'1,5 milliard de musulmans au monde. Est-ce que tous réagissent comme les talibans?
Je vous non mais demande. Des enfoirés, il y en a partout.
Non mais c'est ce qui m'énerve, c'est que quand on va toujours montrer du doigt un exemple et on va l'étendre à toute la population de la même appartement au même à la même communauté quoi. Donc c'est problématique. Aller voir au Maroc, En Algérie.
Tu es marocaine.
En Tunisie.
Enfin, tu es née au Maroc.
D'origine
marocaine, oui. D'accord. Oui, mais tu bon, sais, ils veulent tout savoir, hein, ceux qui nous écoutent.
Je vais pas mentir, non. Je vais être sans tabou. Il y a des problèmes. Mm-hmm. C'est vrai. Il y a des problèmes, en effet. On a mis la mainmise sur un certain pouvoir, sur un pouvoir masculin, et on n'a pas laissé la place, assez de place aux femmes dans le débat public. Dans le débat public et dans la société productrice, dans les institutions, dans la politique. Il y a des efforts qui ont été faits, mais il faut dire qu'il y a quand même une décadence qui a duré quand même de longs siècles et que c'est difficile. C'est difficile aujourd'hui de pouvoir prendre sa place parce que c'est ancré. C'est ancré dans les mentalités, quoi.
Alors une autre question, c'est pas vraiment une question, mais c'est toujours difficile de poser des questions, hein. Même de rien, on n'est pas tous doués pour poser des questions. Mélane écrit, personnellement, je voudrais vous dire qu'il y en a qui essaient de convertir, qui font des pressions, surtout sur les jeunes filles dans les banlieues.
Jeunes filles françaises, enfin non musulmanes.
C'est toujours la difficulté, si tu veux. Ne touche pas le micro, surtout avec ta main. C'est toujours la difficulté de poser la question. C'est pas pareil que si c'était au téléphone. Est-ce qu'il est vrai qu'il y a des personnes dans l'islam qui essayent de convertir d'autres personnes?
La religion musulmane est une religion prosélyte. Comme la religion chrétienne a été longtemps prosélyte, et elle l'est encore aujourd'hui par ses missionnaires à travers le monde. Et qui essayent aussi de leur côté à déstabiliser comme ça et à convertir les musulmans en Algérie. On a eu un problème d'ordre de conversion justement d'Algériens qui apparemment considéraient qu'ils avaient plus à gagner avec les chrétiens qu'avec l'État.
Autre question pour toi, Marika. Oui. C'est Dominique qui pose cette question. J'ai eu l'occasion de côtoyer beaucoup de musulmans de toute nationalité, mais lorsque l'envie d'assister à la prière du vendredi m'est venue, je me suis fait virer de la mosquée alors que j'avais bien respecté toutes les règles avant d'y entrer. Quelle déception pour moi à cette époque. Qu'en pensez-vous?
C'est du n'importe quoi, ils n'auraient jamais dû vous renvoyer. C'est vous leur avez dit que vous étiez pas musulman. Surtout si vous venez de vous-même à la prière, quoi. Enfin bon, au contraire, vu que la religion musulmane elle est prosélyte, elle vous reçoit les bras ouverts.
Un non musulman peut assister à la prière?
Ah, assister.
Oui, mais c'est bien ce qu'il dit.
Assister.
Je me suis fait virer de la mosquée alors que j'avais bien respecté toutes les règles avant d'y rentrer, pour y rentrer.
Oui.
Pour rappel, chez
si
nous.
C'est pour être en tant que.
Mais dans l'église catholique,
bien entendu, n'importe qui peut y entrer.
Parce qu'il y a. J'ai du mal.
Oui, t'as du mal.
Parce qu'il y a le.
Plante tes mains, Marika. Quel est le problème? T'appelles un micro.
Plus.
Ben oui, mais alors.
Mais bon, c'est pas grave.
Non. Au minimum de la bassette.
Voilà.
Non, je parle du micro. Hein.
C'est comme nous, comme toi et moi.
Bah, il aurait fallu
dans,
faire la...
Dans une église, lorsqu'il y a la messe...
N'importe qui peut rentrer dans une église, dans un temple.
Mais dans une mosquée, il y a les mouvements de la prière qui se font et tout le monde le fait en même temps. Donc ça, c'est une
chez nous, chez les catholiques aussi, prêtre dit... On se lève, tout le monde se lève, le pas dit.
Pourquoi tu dis chez nous, chez toi?
Oui, mais si cette personne...
Non, mais toi, tu viens par paillot.
Si cette personne avait fait les gestes en même temps que les autres, personne ne l'aurait viré. S'il est resté debout à rien dire et à rien faire, je pense qu'on a dû lui dire non, parce qu'il n'y a personne, tout le monde...
Donc tu confirmes bien qu'un non-musulman, en principe, peut assister à une prière dans la mosquée?
Oui, si elle participe.
À condition de demander la permission.
Et de participer, mais on s'en fiche, non, tu t'as pas demandé la permission. Ah, tu rentres et tu fais les gestes tels que tout le monde le fait. Personne ne saura que si t'es musulman ou pas, enfin peu importe quoi. Maintenant, si t'arrives en short dans la mosquée, c'est sûr que tu te fais virer quoi.
On remarque que tu arrives en short dans une église, tu te fais virer
aussi,
également.
Oui.
Les épaules ne doivent pas être nues.
Moi, je me suis fait virer. Bon,
donc Jean-Claude, tu pourras pas y aller.
Monsieur,
à Rome, je me suis fait virer moi.
Vous me faites sourire.
Je me suis fait virer du Vatican moi. J'étais juste manche courte.
Je suis frustré de pas avoir.
On m'a dit
micro.
De pas rentrer.
Eh ben, tu n'avais qu'à brancher le tien.
Non, mais oui, mais il marche pas bien.
Voilà.
Mais bon, par exemple, je me souviens il y a quelques années à la Griba. Redonne-moi le micro parce que ils vont gueuler, ils me disent, on m'entend pas. Je me souviens il y a quelques années, c'était juste la veille où il y a eu l'attentat. Sur l'île de Djerba.
Il y a une très très vieille synagogue.
Quelle année? Quelle attentat? Il y en a eu
plusieurs. Attends, mais celle c'était en 2000. Oh, non, ne me demande pas, j'ai pas préparé.
Espagne.
Non, Agriba, l'Agriba, à Djerba.
À Djerba.
À côté d'Oumsouk, sur l'île de Djerba.
À Djerba même.
Il y a une synagogue, qu'est-ce qui est la plus ancienne synagogue de peut-être du monde même.
Oui,
hein.
Oui, d'accord.
Et j'avais été emmené. C'était la veille où il y a eu le camion qui est rentré, il y a eu des morts. Ouais, et j'avais emmené un groupe de personnes en fauteuil roulant. Ils nous ont interdit de rentrer. Ils nous ont dit, il faut qu'ils quittent leurs chaussures. Ils ont quitté leurs chaussures. Et il y en a un rabbin, qui a dit, non, non, parce que avec les pneus, ça leur sert de chaussures. Je veux dire, il y a des cons aussi partout. Mais ça ne veut pas dire que tous les juifs sont pareils.
C'est dans une synagogue.
Dans une synagogue. Oui, la synagogue, la Griba.
Je pense que c'est des lieux de culte, il faut les respecter. Je veux dire,
parce que quand j'entends...
Quand on demande de rentrer dans
Frédéric
un lieu
de
public...
Dire, tu vas à Montmartre ou tu vas à la Notre-Dame de Paris, pendant cet été, la même en short, la poitrine, les nichons à l'air ou pas loin, on les trouve pareils.
Pas pendant les messes.
Ah, pas pendant la messe, oui, c'est vrai, pas pendant l'office.
Mais là, c'est le culte, c'est pendant le culte, pendant la prière quand même.
Bon,
on parle un petit peu de sujets qui fâchent. Jean-Claude m'a dit, il faut que tu titilles Marika. J'ai pas compris ce que vous voulez dire par là.
Là, c'est gentil parce que c'est le début.
Alors, on ramène un petit peu l'islam à la France. N'y a-t-il pas aussi ce côté un petit peu où l'on n'aime pas trop l'islam avec le fait que l'on voit des femmes de plus en plus avec des voiles. Ça, c'est moindre mal, mais avec des burqas. Et n'y a-t-il pas un sentiment... On se dit, voilà, c'est une forme d'esclavagisme, le fait de donner à une femme une burqa avec une espèce de tumouche là, qui est juste devant le visage. L'esclavagisme, ça te parle quand je te dis ça?
Oui, ça peut en effet paraître, comment dire, dégradant quand la personne en face voit cette personne qui est derrière, enfin cachée derrière une burqa noire. En tout cas, une sorte de couverture qui couvre tout. Bon, alors cette histoire de burqa. Donc la burqa, déjà, c'est un terme qui est propre à l'Afghanistan et qui n'existe pas ailleurs, et qui existe en Afghanistan, première chose. Donc c'est une tenue traditionnelle. Ce qu'on trouve au Maghreb, on appelle ça le haïk, c'est-à-dire que c'est un voile qui juste couvre, il est transparent et il couvre juste le nez, on laisse juste apparaître les yeux. Et on a la djellaba, le joulbab qu'on appelle ça. Donc, ça c'est le haïk. La troisième, c'est le niqab qu'on peut trouver en effet dans les pays en Égypte hein, ou dans les autres pays du Maghreb. Et donc, en fait, voilà, il y a différentes façons de porter le niqab. Bon. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, donc, il y a une divergence depuis 14 siècles entre musulmans, à savoir, est-ce qu'on couvre le visage ou pas? Est-ce qu'on laisse découvrir le visage ou est-ce qu'on couvre tout le visage? Ça fait 14 siècles que ça se tiraille.
Bon. Vous avez pris du temps, hein?
Ça fait 14 siècles. Ils n'ont pas encore trouvé de concession, de consensus. Donc le problème se trouve déjà dans des divergences. Et ce que moi je sais, quand on retourne au Ousoul, on dit que c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit les gens de ma communauté ne tomberont jamais d'accord sur une erreur. Et la communauté est préservée de l'erreur. Donc ça veut dire en fait que dans chaque question religieuse, quand les gens ne se mettent pas d'accord, ça veut dire que ce n'est pas une vérité. Donc, et un autre hadith dit aussi que, et ce hadith est faible, mais il en est devenu un adage. Les divergences dans la communauté, entre les courants de pensée, est une miséricorde de Dieu.
Donc, pour les non-musulmans, un hadith.
Un hadith, c'est un dit prophétique, c'est pas le Coran. C'est un dit prophétique. C'est-à-dire, c'est un peu... Allez, je vais risquer de dire. Oui. Pour faire un peu l'analogie,
oui.
C'est un peu comme la Bible, le chrétien. Enfin, le Nouveau Testament. C'est raconté, on raconte la vie de Jésus par des anonymes, là. C'est des anonymes. Sauf que là, les gens sont connus. Les gens, on les connaît. Ils ont écrit... on va dire que ça, c'est, les hadiths ont écrit quand même bien plus tard, parce que le prophète a interdit d'écrire les hadiths de son vivant. C'est important, parce qu'il avait peur, comme il a dit, j'ai peur que ma communauté confonde le Coran et les hadiths. Il sacralise les hadiths.
Il a vécu combien de temps, Mohamed? Mohamed, pardon.
Alors,
ne regardez pas Jean-Claude Carton.
Je crois qu'il est mort à 56 ans.
J'ai une autre question.
Non, 60...
Attends, 40... Non, mais c'est bon, je vais vous débrouiller.
63 ans, il est mort.
63 ans.
Je sais pas, j'étais pas là, hein, de toute façon, mais est-ce que c'est vraiment important de savoir quand il est mort?
Je sais pas.
Par exemple, ce besoin de savoir, il est né quand, il est mort quand... Prends le micro de Marika.
Mohamed est le prophète. Jésus, chez vous, est un prophète.
Aussi.
Notre prophète... Enfin, votre prophète et notre Christ est mort à 33 ans.
Oui, oui.
Vous, il est mort à 66 ans.
Ah. 63.
Il était en meilleure santé alors.
Voilà.
Il a eu la révélation à 40 et il est mort.
Ce n'était pas la croix et la bannière.
J'adore ce genre d'humour de temps en temps. Ah, ça y est, ça se détend. Une question à Marika. Le fait que la femme porte le foulard a-t-il un rapport avec les religieuses ? Dans d'autres religions.
C'est une question très intéressante parce que moi, dans mes recherches, donc moi, j'ai fait ma mémoire sur le voile, donc j'ai tout traité là-dedans, sauf la politique, qui fera office d'un mémoire en master. Là, c'est un mémoire en licence. Donc là, je n'ai parlé que des usul, enfin des fondements. Donc moi, je dis que le voile tel qu'on le voit aujourd'hui des musulmanes. Il y a, je parle des voiles, juste du foulard, hein, des foulards tels qu'ils sont. Ils ont deux tissus. Il y a un tissu d'abord qui est mis comme une sorte de bonnet. Et ensuite, on rajoute... alors souvent, ça peut arriver que ce soit une couleur différente. Donc ça peut être le bonnet est blanc. Et au-dessus, quelque chose de bleu clair, rouge, jaune, orange, peu importe. C'est comme les religieuses. Ça ressemble aux religieuses.
Comme les religieuses.
Et en effet, l'islam, arrive comme elle arrive en troisième position... le challenge que l'islam a, c'est de respecter les lois qui ont été oubliées et qui ont, d'où les hommes ont dévié de la religion originelle, du message originel. Donc l'islam arrive en dernière position et il reprend des choses des juifs qui n'étaient pas respectées ou qui ont été comme on dit, falsifié, d'une certaine manière, c'est ce que dit le livre, hein, le Coran, dit que sur certains passages, on a falsifié, pas le texte, le texte tel qu'il est aujourd'hui, il peut être reconnu comme un texte saint. Attention, hein, moi je reconnais le texte saint de la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est simplement l'interprétation, au fil du temps, qui a changé.
Qui a évolué,
et qui fait qu'aujourd'hui,
donc, il y a eu des corrections,
on est face une autre langue.
Quelle différence tu fais entre livre saint et livre sacré? C'est pas tout à fait la même chose.
Hein. Ah, ouais. Ah oui, c'est une bonne... Oui, c'est encore une autre question. On va répondre simplement à la dame, dame qui disait que c'était chrétien.
Oui, parce que j'ai trois questions encore à
proposer. Oui, mais c'est important, parce qu'en fait, le voile, chez les chrétiens, il y a le voile, puisque c'est Paul.
Paul de Tarse.
Voilà, on le voit chez Paul.
Qui a eu la révélation sur le chemin de Damas.
Tout à fait.
Et qui n'était pas très très chrétien.
Ah bon? Ah bon?
Oui, oui.
Pourtant, c'était un persécuteur chrétien, comme il était un persécuteur juif.
Qu'est-ce que je viens de dire? Il n'était pas très chrétien. Ah oui. C'était un grand persécuteur devant l'Éternel, si j'ose exprimer ainsi. Mais enfin, il s'est converti, il a reconnu ses conneries quand même, un peu plus tard.
Il a arrêté de persécuter les juifs. Il a persécuté les juifs.
Ah bon, comme Moïse un petit peu quand il est descendu du Sinaï. Enfin bon. non. Oui, alors pour répondre, puis parce que j'ai d'autres questions.
Paul de Tarse dit, donc on le voit dans le chapitre de l'évangile, je vous dirai la source si vous voulez. Voilà. Cependant, je veux que vous compreniez ceci. Le Christ est le chef de tout homme, le mari est le chef de sa femme, et Dieu est le chef du Christ. Si donc, pendant le culte, un homme a la tête couverte, lorsqu'il prie ou donne des messages reçus de Dieu, il déshonore le Christ. Mais, donc l'homme doit
avoir tête nue.
Tête nue. Ok, c'est important. Mais si une femme est tête nue lorsqu'elle prie, on est dans le culte là, et je vais vous expliquer pourquoi, ou donne des messages reçus de Dieu, elle déshonore qui ? Pas Dieu, chez les musulmans c'est Dieu. On déshonore Dieu quand on n'est pas couvert, hein. Quand on n'est pas couvert. On déshonore pas le mari. Et par contre là, dans la Bible, c'est elle déshonore son mari. Elle est comme une femme aux cheveux tondus. Si une femme ne se couvre pas la tête, elle pourrait tout aussi bien se couper les chevelures. Mais puisqu'il est honteux pour une femme de se couper les cheveux ou de les tondre, il faut alors qu'elle se couvre la tête. Mais c'est pour honorer son mari. Donc, c'est ce qui explique la crispation actuelle des chrétiens.
Des chrétiens, enfin,
des anciens chrétiens, on va dire, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'athées. Laïcs qui ont un problème avec le voile de la musulmane, parce que, et surtout les femmes, parce que c'était une bataille qu'elles ont eue d'émancipation face à l'homme, quoi.
Alors question, excuse-moi Frédéric, c'est même pas une question, mais je confirme, j'ai essayé, c'est Jean-Paul qui écrit, je confirme, j'ai essayé de faire connaître la mosquée à Paris, aujourd'hui même, à mon neveu. Aujourd'hui, on n'a pas pu rentrer. Il nous a été dit pas de visite le vendredi. Effectivement, la mosquée de Paris est fermée le vendredi. Mais revenez un autre jour, ça vous coûtera 3 euros.
Oui, parce que y a un café qui est très sympathique.
Oui, avec un thé.
Avec un thé magnifique. Ouais. Et des oiseaux. J'ai jamais vu ça. Des oiseaux qui viennent à votre table. Des
donc
moineaux,
le vendredi,
normalement, les moineaux, ils sont
c'est pas du tout la peine d'aller visiter le...
Non, parce vendredi, que c'est pas fermé.
C'est la route, pas le vendredi. C'est le jour où tous les musulmans... Déjà, il n'y a pas de place pour les musulmans. Il y a très peu de mosquées par rapport au nombre de musulmans qu'il y a en France. Il y a 6 millions de musulmans en France. Et donc le vendredi, c'est plein, archi plein, et les voitures, elles sont stationnées à 2 km.
Question très intéressante de Dominique. Elles le sont toutes, mais ça devient un peu plus pointu. Un jour, j'ai rencontré la femme d'un de mes amis musulmans qui m'a demandé d'aller chercher son mari car elle avait quelque chose à lui dire. Je précise que cette femme est française, convertie à l'islam, était couverte de la tête aux pieds. Je lui ai demandé pourquoi elle n'allait pas elle-même voir son mari. Elle m'a répondu qu'une femme musulmane ne pouvait pas pénétrer le lieu de travail de son mari.
Oui, ben c'est ça, c'est les Françaises qui sont insoumises. Elles commencent à devenir converties. Elles se soumettent.
Donc c'est possible.
Oui, ben apparemment oui, c'est possible. Mais bon, un lieu de travail, c'était un lieu de travail musulman ou c'était quoi ? Enfin bon... Ça, c'est un des trucs, une des choses sur lesquelles je déplore. Moi, je déplore la conversion des Françaises qui sont en perte d'identité et qui trouvent dans l'islam des réponses et qui portent la burqa parce que les porteuses de niqab, ce sont en majorité des Françaises, pas d'origine musulmane, des Françaises d'origine chrétienne, etc. Donc il y a un malaise, apparemment.
Elles sont quand même très peu nombreuses.
Oui, oui, à l'époque, le débat a commencé à... Enfin, quand je veux dire, les plaintes de niqab ont été révélées, il y avait 300 personnes. Aujourd'hui, je crois qu'il y en a plus, parce que le problème, il est là. Le problème, c'est comme on en a fait beaucoup de pubs, et qu'on a touché, stigmatisé toute une population, et ben il y a des réactions. Voilà. Et ce qui est dommage, c'est que la réaction, elle est justement de se cramponner à ça, quoi. Enfin.
Mais tu ne m'as pas répondu.
Et Dominique précise que c'était dans une boutique d'alimentation. Le mari de cette femme.
Une boutique halal, peut-être.
Une boutique d'alimentation, une épicerie.
C'était la robe du coin, dit-il.
Ah, d'accord.
Comme on dit chez nous.
Tu ne m'as pas répondu sur le côté un petit peu esclavagiste que l'on peut considérer. Déjà, il y a la femme qui marche derrière avec le niqab et tout le tintouin. C'est quand même pas terrible.
Oui, bon, je disais que le niqab, donc, c'était que les femmes du prophète qui le portaient, d'après la tradition.
Il y en avait combien ?
Il a épousé 11 femmes et à sa mort, il en restait 9. Donc, il n'y a que les femmes du prophète qui portaient le voile. Et normalement, ça n'aurait jamais dû être étendu aux autres femmes. Il n'y a aucune preuve que le prophète a voilé ses filles. En tout cas, a demandé à porter le niqab à ses filles. Bien au contraire, il y avait des petites filles qui étaient la tête, qui se baladaient dans les salons tête nue, devant les hommes. Donc, ça ne posait pas autant de problèmes que ça ne se pose aujourd'hui. Donc, le niqab, c'est, comme vous expliquez, bon, on va aller, si ça vous intéresse ou pas que je vous cite les versets et l'évolution des versets.
Tu serais coincé si on disait non, mais bien sûr que ça nous intéresse.
Bon.
Tu es là pour.
Tu es là pour ça.
Donc, dans le Coran, on va commencer déjà par le Coran, parce que dans la législation, musulmane, dans le droit musulman, pour légiférer, il faut d'abord partir du Coran, commencer à rechercher les hukoum, les règles dans le Coran. Si dans le Coran on ne trouve pas, on va chercher dans la Sunna. La Sunna, c'est la vie du prophète, les hadiths et la vie du prophète, la sira, c'est-à-dire la biographie du prophète. On recherche là, dans la sunna. Et quand on ne trouve pas dans la sunna, là, le raisonnement humain prend sa place. C'est ce qu'on appelle l'ijtihad, un effort d'interprétation. Donc, pour l'histoire du voile, on va commencer à aller prendre le Coran. Donc, le Coran, il cite 3 versets. Donc, moi, je les sépare en 2. Il y a les versets coraniques traitant du voile, du voile, par un vêtement apparent ou tissu. Donc le premier verset, c'est le premier qui annonce un rideau ou une tenture. Donc c'est le tout premier verset dit, entre guillemets, du voile révélé. Et il dit ceci. Si vous avez un objet à demander à ses épouses, demandez-le de derrière une tenture. Min warahil. Hijab, à quoi s'attache davantage de pureté pour votre cœur et pour les leurs, pour le leur. Donc, ce qui est important dans ce verset, c'est que c'est le verset dit le plus communément reconnu avec le terme hijab, hijab. Mais là, on voit bien que c'est pas un hijab, c'est pas un couvre-chef, c'est pas quelque chose qui couvre la tête. C'est un rideau. C'est un rideau en fait qui séparait. Qui séparait donc les femmes du prophète aux compagnons du prophète. Bon. C'est-à-dire que c'était un lieu public. C'est parce que de plus en plus de gens se convertissaient, la religion grandissait, et donc son lieu d'accueil intime était devenu public. Donc là, il se trouve qu'il y avait des gens qui étaient des hypocrites, qui se disaient musulmans, mais qui molestaient les femmes du prophète et molestaient donc justement la religion musulmane dès que le prophète avait le dos tourné, et y compris dans sa propre maison, dans son propre lieu intime. Donc c'est de là que vient le verset qui dit « Si vous avez un objet à demander à ses épouses, demandez-le derrière une tenture. » Donc on a séparé pour la première fois la pièce. Il y avait une pièce qui était les femmes du prophète, qui pouvaient donc aller et venir comme elles voulaient, même en chemise de nuit. Ça posait aucun problème, parce qu'elles étaient cachées. Et le lieu public où les compagnons venaient questionner le prophète sur la nouvelle religion. Donc ça, c'est important. je voulais aussi dire qu'on voit à qui s'adresse le verset. Si vous avez un objet à demander à ses épouses, demandez-le de derrière une tenture. À quoi s'attache davantage de pureté pour votre cœur et pour le leur? Ça s'adresse à qui? Est-ce que ça ne s'adresse pas aux femmes du prophète? Ça s'adresse aux hommes. C'est, on demande aux hommes de parler derrière une tenture quand ils veulent demander quelque chose aux femmes du prophète. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait des mains aux fesses qui se baladaient. Les munafiquines, ce qu'on appelle les munafiquines, les hypocrites, molestaient vraiment les musulmanes en général et surtout les femmes du prophète, de façon à les discréditer. Parce que l'honneur, c'était d'une importance capitale dans la tribu, quoi, l'honneur. Donc, c'est important, c'est, il est intéressant de voir que le verset du Jilbab, qui arrive en second lieu, a fait qu'on a techniquement transformé donc le rideau en un voile. cette tenture qui divisait donc la chambre du prophète en deux, séparant la partie publique et, là où il recevait les visiteurs. Donc là où les femmes pouvaient circuler derrière la tenture, c'est bien plus tard voilà que les savants ont fait l'analogie, donc ce qu'on appelle le qiyas, et là on est vraiment dans la légifération. Donc là c'est les hommes qui ont fait quelque chose qui a fait que techniquement ce terme hijab a été en référence au verset qui arrivait derrière, hein, le jilbab, et l'ont techniquement transformé par le voile, et on va jusqu'à dire que. Et ça, c'est l'école minoritaire, et un exégèse qui s'appelle Ibn Kathir, dans son exégèse du Coran par rapport à ce verset-là, il dit que c'est un voile intégral. C'est donc le niqab. Donc, d'après la tradition que nous verrons donc plus tard, le voile intégral fut apposé seulement aux femmes du prophète, comme je vous le disais, et il n'y avait aucune preuve que le prophète l'a imposé aux filles. Et on peut donner aussi une information supplémentaire par rapport à ce verset, qui prouve que ça a été donc révélé pour les femmes du prophète essentiellement. C'est qu'il la suite du verset dit « Il ne vous appartient pas de blesser l'envoyé de Dieu ». Non plus d'épouser de ses femmes après lui. Cela, jamais. Ce serait en Dieu très grave. Donc, la preuve que c'est seulement aux femmes du prophète qu'était destiné ce message, puisqu'elles n'avaient pas le droit de se marier derrière le prophète. C'est-à-dire que le prophète mort, elles étaient vouées à Dieu, en fait. Elles étaient vouées au messager du prophète. Et c'est ce qu'on appelle, on le revoit dans le verset, dans un autre verset qui arrive plus tard et qui l'explique, qui dit, et c'est le verset du double châtiment et de la double récompense promis aux femmes du prophète. Voilà, une sorte de sacrifice qu'elles ont, mais en échange, elles avaient le paradis leur été donné. Et qu'elles pouvaient, libres à elles, de partir. Elles pouvaient partir comme ça, et ou alors rester. Mais elles avaient certaines règles. D'où voilà. Ensuite, il y a une divergence donc justement par rapport à ça, à savoir que bon, la majorité des musulmans considèrent que le foulard, il est majoritaire. Enfin, c'est celui que les femmes portaient à l'époque. Mais il faut savoir aussi une chose, c'est que ce voile est un voile d'émancipation.
Ah.
Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que à l'époque, il faut revenir avant l'islam, les femmes étaient répudiées une multitude de fois, et pour pouvoir subvenir à leurs besoins, parce qu'elles étaient livrées à elles-mêmes avec leurs enfants, elles n'héritaient pas. Il n'y avait aucun avantage pour elles, la pension alimentaire n'existait pas, enfin tout ça. Donc elles étaient livrées à elles-mêmes, et pour se vivre, elles se prostituaient. Donc il y avait beaucoup de femmes arabes qui se prostituaient. Et elles se prostituaient à l'image des prostituées de la Mésopotamie. Elles laissaient découvrir les seins. Ok ? Elles laissaient découvrir les seins. Et le verset qui vient, justement, le dernier verset révélé, ça c'est le premier, il y en a encore un autre entre les deux, qui est le julbab. Mais chronologiquement, le dernier verset révélé, c'est le verset qui dit, qui est en effet le couvre-chef, mais on parle de poitrine, cacher la poitrine. On ne parle pas de cheveux, il n'y a pas le cheveu. Le cheveu, on va l'avoir dans les hadiths. C'est encore une autre histoire. Mais si je reste pour le moment au Coran. Et donc, du coup, avec le verset du julbab, qui arrive en second lieu, où là, on demande aux femmes de porter un julbab. Julbab, allez, ça ressemble au djellaba. Vous voyez les djellabas qu'on a au Maroc,
en Algérie. Mmh.
Voilà. Donc, c'est un long manteau avec une capuche. D'accord ? Donc, c'est le deuxième verset. Pourquoi ? Parce que il y a une circonstance de révélation par rapport à ce verset, comme je vous ai expliqué la circonstance de révélation par rapport au rideau. c'est que il n'y avait pas de toilettes dans les maisons. Il fallait aller dehors pour aller faire ses besoins. Et donc les femmes du prophète sortaient, et il n'y avait pas le voile à ce moment-là, elles sortaient donc la preuve que le voile, là, tel que le premier qui est un rideau, n'a pas été étendu sur la tête à ce moment-là, puisque les femmes sortaient. Et au loin, on a molesté les femmes, et on a reconnu une des femmes du prophète, c'était la plus grosse, donc on pouvait la reconnaître parce qu'en plus c'était en fin de soirée, on pouvait la reconnaître au loin, parce qu'elle était énorme. Et au loin, donc on l'a vue, on s'est moqué d'elle. Et vient Omar, au loin, qui reconnaît, le fait qu'on se moque des femmes du prophète, commence à disputer les femmes du prophète en disant « rentre à la maison, qu'est-ce que vous faites là, rentrez !» Et elles ont commencé à rentrer, elles étaient mal aussi, elles commençaient à rentrer, courir chez elles, et le prophète a été mal du fait qu'on ait molesté ces femmes, quoi.
Au niveau de
son, par rapport à son honneur, quoi. Et là, Omar dit, c'est Omar, c'est le deuxième calife, Omar, hein, qui arrive après la mort du prophète, il est le deuxième calife de l'islam. Il dit, c'est un compagnon, un des plus vaillants compagnons du prophète, et il dit, je l'ai quelque part ici, si Dieu pouvait... voiler les femmes de façon à ce qu'elles puissent être protégées, à ce qu'on se moque plus d'elles, qu'elles soient plus molestées. Ah là là, si. Et le verset arrive. Où là, c'est le julbab, donc le deuxième. Bon, je vais vous en mettre avec ça, mais je suis obligée de le faire.
Non, pas du tout, non, parce que c'est...
Bah, julbab.
Le deuxième verset, on est sur le deuxième verset, ouais. Qui dit, « Prophète, dis à tes épouses, à tes filles, aux femmes de croyants, de revêtir leur mante. » Alors moi, j'ai la traduction du Coran de Jacques Berck. Hein. Très important. C'est important de le dire. Parce qu'il y a des traductions différentes selon les traducteurs. Donc, je recommence. « Prophète, dis à tes épouses, à tes filles, aux femmes des croyants, de revêtir leur mante. » Mante, qui veut dire manteau. Mante. « Sur moyen d'être reconnues pour des dames. » Entre parenthèses, pour des dames, reconnues pour des femmes qu'on ne peut plus molester, et d'échapper à toute offense. Dieu est toute indulgence et miséricordieux. C'est la sourate 33, verset 59. Donc là, ici, on a traduit différemment, déjà. On a traduit, par exemple, une particule, mine. Dans ce verset, qui pourrait se traduire « qu'elles tiennent serré sur elles un pan de leur mante ». Cette particule apposerait dans cette lecture littéraliste que le visage soit couvert. Cette méthode d'exégèse tafsir, d'exégèse littéraliste, est celle d'Ibn Kathir, donc qui est de l'école Hanbalite et qui sont les littéralistes de l'islam, minoritaires. Ils ont toujours été minoritaires, ça. Ils n'avaient même pas 0,002% de la population. Hein, c'est grâce au pétrole dollar des Saoudiens et du Qatar qu'aujourd'hui on en entend parler, hein, entre parenthèses. Donc, plus littéraliste, donc c'est Ibn Kathir et de ses co-religionnaires, Hanbalites ou Wahhabites, interprètent que soit couvert en entier le visage, mais en plus d'être couvert en entier, l'ordre intimé par Dieu serait de l'imposer. Là, on est dans l'obligation de le faire. Donc, pourtant, dans ce verset, le terme julbab est traduit, donc, comme je vous l'ai dit, par manteau, et qui est comme une julaba qu'on peut trouver dans les pays arabes, certains pays arabes, surtout au Maghreb. Donc, le verset 31 de An-Nur, donc le distingue un autre verset qui est le verset du Himar. Déjà, il y a trois, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a trois terminologies différentes pour appeler le voile. Il y a le rideau, qui là n'a rien à voir, ce n'est pas quelque chose qu'on met sur la tête. Il y a le julbab, qui là est une djellaba. Et il y a le khimar, dont je vais vous citer tout de suite après, et qui est le dernier révélé, le khimar. Donc, les tenants majoritaires hein, du dévoilement du visage, mais qui sont pour le fait de voiler, de voiler la tête, les cheveux, disent. Donc traduisent Yudnina. Donc c'est Tahir ben Ashour pour les néophytes qui m'écoutent et qui connaissent.
Dont on fait partie quand même.
Tahir ben Ashour, tout le monde connaît. Traduisent donc, et des gens comme lui, traduisent Yudnina par revêtent leur mante ou cape. Donc c'est, vous voyez pas la nuance, mais elle est énorme. Donc depuis plus de 14 siècles, donc comme je vous disais, les savants ont divergé sur l'obligation du niqab et sur le fait de couvrir ou non le visage. Cette divergence d'opinion encore aujourd'hui fait rage et on s'aperçoit bien que là il y a différentes interprétations dues à l'équivocité des termes dans le Coran qui renvoient au voile au pluriel. Au voile, hein, qui apparemment, en plus quand on le traduit vraiment dans un sens littéral, hein, on voit bien que ça n'a rien à voir avec ce que la burqa ou le niqab.
Frédéric,
tel qu'il est.
Oui, alors, juste une chose, juste un commentaire sur ça. Donc ça c'est toute l'histoire. Ça fait quand même pas mal d'années, et pas mal d'années qu'il y a des musulmans en France. Moi je vis dans une ville où ça se passe très très bien, mais ça fait quand même 10 ans, un petit peu moins, peut-être il y a 10 ans, qu'il y a maintenant de plus en plus de femmes qui portent cela. Donc ma question
pourquoi,
est...
Pourquoi, le niqab ou le voile? Parce que faut faire...
Alors, le voile...
Les gens, ils font l'amalgame.
Non, mais je fais pas l'amalgame. Le voile est arrivé il y a 5-6 ans. Maintenant, il y a quand même 3, 4, 10 niqabs chez moi. Donc pourquoi y a-t-il eu, depuis 10 ans, pourquoi les femmes musulmanes ont décidé de ne plus s'occidentaliser et de revêtir le niqab et le voile?
Oui, c'est une réaction. C'est une réaction à l'islam.
À quoi?
C'est une réaction à, bah, à ce qui se passe, à cette haine de l'islam, à ces détracteurs de l'islam. Il y a une réaction. Et il n'y a pas que des musulmans, comme je vous disais. Il y a aussi des Françaises qui sont athées. Qui ont... Moi, je connais, par exemple, près de chez moi, une femme, une jeune fille qui a 25 ans. Elle s'est déscolarisée, merci.
Voilà. Je vous en prie,
pas désolidarisée. Elle et en même temps, c'est désolidarisée.
Chaque fois que je peux aider que ça débarrasse, je suis là.
Elle a été donc déscolarisée. Elle est restée à la maison. Elle a une famille éclatée. Divorce. Alcoolique du côté du père. Qui battait sa mère. Bon, voilà. Une expérience pitoyable.
Encore une fois, c'est pas spécial.
Cette personne porte le niqab aujourd'hui.
Excuse-moi, je voudrais aller plus loin, mais j'ai envie de te titiller. Mais
en quoi c'est dérangeant, Frédéric? Ça te dérange pas? Moi, je vais très souvent faire des courses à Épinay-sur-Seine. Il y a un grand espace, d'ailleurs, je vous recommande d'y aller parce que vous pourrez remplir vos caddies, dépenser moins de thunes que si vous allez sur Paris. Bon, c'est vrai qu'il y a quelques kilomètres pour aller à Épinay-sur-Seine. Mais perso, vraiment, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas.
Non, mais moi, ça ne me dérange pas.
Moi, ce qui m'a gêné, c'est le jour où les curés en France ont quitté la soutane et se sont habillés comme n'importe qui. J'ai trouvé dérangeant, par contre.
Là, je te rejoins complètement.
Ouais.
Moi, ce qui me dérange, c'est des jeunes femmes que j'ai connues très occidentales.
Ouais.
Et qui, du jour au lendemain, se mettent le voile, le rideau, enfin tout.
Mais l'influence des hommes, qu'est-ce que tu en fais?
Moi, je pense que Moi, je vais aller...
L'esclavagisme dont je parlais tout à l'heure.
Peut-être même pas que c'est l'esclavagisme. Pour certains, oui, ça peut l'être, mais c'est peut-être même pas... Qui vous dit que c'est pas pour éviter le suicide?
C'est une question à...
Qui vous dit que c'est pas pour éviter le suicide?
C'est une question à leur poser, justement.
C'est pas une... Pour éviter le suicide des jeunes, certaines personnes, qui ont... vraiment perdu toute identité, valeur, et qui se retrouve dans une situation où vraiment là, il faut se cacher, quoi. Il faut se mettre derrière quelque chose qui est comme une sorte de protection, un mur. Et justement, alors là, c'est très important, cette histoire de mur, parce que le hijab, il a un seul verset qui parle, pas d'un voile sur la tête, mais d'un rideau. Et cet autre verset qui...
pas, qui d'où la terminologie de hijab existe, mais qui est un objet abstrait, quelque chose d'abstrait, totalement abstrait. Ça n'est pas du tout un tissu. C'est ça qui est intéressant, c'est pourquoi, je me demande, on a pu étendre le terme hijab à tous les voiles. Pourquoi on ne l'a pas appelé kimar? Kimar, pourquoi pas? Himar, couvre-chef. Pourquoi on ne l'a pas appelé julbab? On l'a appelé hijab, alors que le hijab, c'est un rideau. C'est
oui, mais
même
on,
pas...
on, quand tu dis...
Quand je dis on, je parle des savants.
D'accord.
De l'époque,
ouais, d'accord,
des premiers siècles.
D'accord, d'accord.
Les savants des premiers siècles, qui l'ont étendu, d'une part, pour les littéralistes, à toutes les femmes musulmanes, toute la communauté musulmane au niveau des femmes, et deuxièmement, qui ont étendu ce qui était spécifique aux femmes de l'islam, aux femmes du prophète, à toutes les femmes. Ça, la question, elle se pose encore aujourd'hui. Donc là, sur le troisième qui est le plus important, le dernier verset révélé, c'est le verset du couvre-chef. Alors, je vous le lis.
Bien devant le micro.
Ben, je vous le lis.
Ouais.
J'arrive.
C'est vrai que le bureau est inondé de...
Ben oui, parce que c'est les sources. Hein. C'est les sources. C'est très important.
Tu as raison, il est préférable que tu aies les sources écrites.
Parce que je sais que je suis face à des gens qui risquent de m'écouter et qui risquent d'être froissés, que je puisse leur parler comme ça.
Et je peux dire, par rapport à mardi dernier, c'était la première émission, il y a vraiment beaucoup plus d'écoute sur cette émission. Il y a moins de questions, mais il y a beaucoup plus d'écoute. Et j'ai déjà des questions qui sont arrivées à plusieurs reprises. Elle revient quand? Est-ce qu'elle reviendra? Passe-moi le micro parce que c'est vraiment...
Je te le prête.
Merci.
Je te le prête.
Beaucoup de personnes me demandent si tu comptes revenir régulièrement. Et il y a même une personne, une seule, qui demande est-ce qu'elle peut nous donner la date de la prochaine émission? Est-ce que tu es d'accord pour revenir plus régulièrement?
Sûr, oui, bien sûr, avec plaisir. Oui, en plus de déjà l'explication que je vous fais aujourd'hui, l'exposé que je vous fais sur le voile, il va être en plusieurs fois parce que c'est vraiment un très long travail. Vous savez, le voile, c'est complexe, très très complexe. Et je peux pas dire les choses comme ça d'un coup, c'est pas possible. Il faut savoir que c'est tabou. Le voile, c'est un sujet tabou.
Tabou chez qui? Tabou chez vous? Tabou
chez les musulmans.
Ah, voilà.
Et en même temps aussi, il y a une réaction.
Mais c'est,
y a une réaction.
C'est un peu normal. Dès
Moi,
l'instant,
je pense que c'est comme chimique. C'est quelque chose de chimique.
Dès l'instant où ils n'en parlent pas, ce sont un peu comme les. J'avais reçu il y a quelques années un type vraiment très très intéressant, Jean Ézéchiel, qui a écrit un livre extraordinairement cultivé, fouillé, cherché, qui s'appelle Les prophéties de l'islam. Ces prophéties sont enseignées dans les écoles rabbiniques, coraniques. Oh, le lapsus, qui n'a rien à voir. Désolé, hein, désolé mes amis juifs, hein. C'est marrant, on dit toujours, moi j'ai des amis musulmans, moi j'ai des amis juifs, moi j'ai des potes, et ben c'est des êtres humains. Ben ils sont juifs, ils sont musulmans, accessoirement, mais c'est surtout des êtres humains. Oui, j'en étais où? Qui te demande, est-ce que on peut déjà fixer la prochaine émission? La semaine prochaine.
Moi je suis d'accord, si tu es d'accord.
Jeudi prochain, ça te dit?
Oui.
Parce que vendredi j'ai quelqu'un et mardi
d'accord.
J'ai quelqu'un.
D'accord.
Jeudi prochain.
Très bien.
Eh ben voilà, tu me noteras sur tes tablettes.
D'accord.
D'accord. Parce que la façon dont tu as préparé l'émission, moi je la trouve, cette façon très admirable. Bon, c'est vrai que tu as un peu l'habitude du micro, un peu beaucoup même. Mais là, comme tu l'as préparé comme si c'était vraiment la première fois que tu expliquais ça d'une façon totalement.
J'essaie d'être pédagogue, c'est être compris par tout le monde. J'essaie d'être comprise.
Mais apparemment, tu es bien comprise. Tu es bien comprise.
J'essaie.
Là, on va en augmentant. Et bien sûr, vous pourrez bientôt poser vos questions par téléphone. Laissez-nous le temps de nous installer. Vous savez, c'est une drôle d'aventure. Et je vous remercie tous les deux de me suivre de cette aventure. Parce qu'il faut être un peu fou quelque part.
Hein. Moi, je te remercie.
Il faut être vraiment fou pour faire un truc
on
comme ça.
On te vénère.
Non,
musulmane, on vénère personne.
Non.
Il
n'y
a pas de vénération.
Toi, tu n'es pas, soumise à Dieu, toi.
Non, moi, je ne suis pas soumise...
À qui que ce soit.
Aux hommes.
Aux hommes, ouais.
Ça, c'est important.
Mais je pense qu'il y a vraiment besoin, vraiment de plus en plus d'explications. Alors on fera ça à notre petite échelle, avec nos petits moyens. Mais je suis un peu triste, parce que je sais que j'ai des moyens de vérifier. Il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent. Et je suis très, très déçu qu'il n'y ait pas autant de questions écrites. Des questions, parce que c'est ça qui est important. Que vous posiez des questions, que vous les écriviez.
Hein. Le téléphone, vous nous laissez le temps de nous installer, parce que je ne vais surtout pas vous faire payer 30 centimes la minute, hein, parce que ça coûte cher, ça, et que tout le monde n'a pas forcément les moyens. C'est la raison pour laquelle je me dis que ce sont toujours les mêmes qui appellent, dès l'instant où ils ont un peu de thunes. Mais on aborde l'islam. Moi, je te remercie vraiment d'avoir répondu à mon invitation. On aborde l'islam. Moi, je vais essayer de comprendre. Moi, je vais essayer de comprendre pourquoi la haine. Pourquoi cette religion, qui est la troisième, suscite autant d'engouement et suscite en même temps autant de haine. Pour qui? Et là, je te pose une question que les journalistes ne posent pas. Mais pour qui cette religion est dangereuse? Pour qui, Marie-Kaël, à qui?
Est-ce que c'est une religion qui conquiert? Elle a arrêté de conquérir comme à l'époque toutes les contrées par le sabre, on va dire, d'une certaine manière. Et aujourd'hui, elle est complètement en décadence depuis des siècles, mais elle continue à convertir des gens par milliers, tous les jours, tous les ans, il y a de plus en plus de conversions. Le christianisme est en train de, les chrétiens, enfin, en tout cas, les clergés,
mais quelle est la religion?
Flippent leur race. Excusez-moi de l'expression. Parce que l'islam est en train de supplanter le christianisme dans le monde.
Marika, quelle est la religion qui est la plus menacée? Le judaïsme ou le christianisme?
Je dirais que le christianisme a quand même perdu beaucoup de ses adeptes. Mm-hmm. Ils sont devenus, c'est la seule religion où il y a le plus athées, quoique les juifs commencent à les dépasser. Mm-hmm. Je crois que depuis l'État d'Israël, on va dire, et la laïcité de l'État d'Israël, et de l'athéisme, d'une certaine idéologie politique, Dieu n'a pas sa place.
Mm-hmm. Mais politique et religion n'ont jamais fait bon ménage.
Voilà. Et donc du coup, mais ce que je veux dire par là, c'est que il y avait avant le christianisme, aujourd'hui c'est vrai qu'il y a beaucoup de juifs athées. Le communisme, il y avait beaucoup de juifs communistes déjà à l'époque. Donc c'est vrai que dans l'islam, il y a très peu d'apostats comparé à d'autres. Enfin, quand je vous dis apostats, c'est-à-dire des gens qui disent je ne crois plus maintenant. Ou alors on les entend pas. On les entend pas.
Moi, juste une chose quand même. Les trois religions principales, il y a quand même énormément de points communs dans nos religions. Donc, alors, quel est le point le plus commun que nous ayons, nous chrétiens, puisque je suis désolé, hein, je parle pas pour les juifs, je ne parle qu'en tant que chrétien et même en tant que catholique, quel est le point commun que nous avons aux trois religions et quelle est vraiment la différence de l'islam par rapport au christianisme?
J'ai posé la question tout à l'heure.
Nous avons le même prophète, enfin, nous avons le Christ qui est votre prophète. Oui. Rappelons quand même que quand on attaque le Christ dans un film, dans une pièce de théâtre,
les musulmans, ils viennent.
On attaque les musulmans, de certaine manière. Donc,
on attaque Moïse aussi, hein, c'est de la même manière.
Oui, quand on attaque Moïse. Et quand on attaque Marie, qui chez vous est quand même quelqu'un d'important.
Elle est prophétesse.
Voilà.
Elle a le statut de prophète.
Comme quoi, les femmes avaient quand même un beau métier. Donc, quel est le point le plus commun entre nos religions, entre par exemple le catholicisme et la religion musulmane, et quel est le point de discorde plus important?
Alors, moi, je vais commencer par le point de discorde.
Comme tu veux.
D'accord. C'est la Trinité et l'iconographie et la divinité de Jésus. Parce que Jésus, dans l'islam, est représenté comme un...
N'est qu'un prophète.
Comme un prophète. Et Messie même, hein, parce qu'il revient à la fin des temps. Donc il est toujours vivant, il n'est pas mort. Donc jusque-là, on rejoint les chrétiens. Par contre, la divinité de Jésus n'est pas acceptable pour les musulmans. Et sinon, j'aurais un reproche à faire aux musulmans, un vrai reproche, c'est que ce serait bien qu'ils s'intéressent un peu plus aux écrits bibliques et de lire un peu Jésus, parce qu'il leur apprendrait beaucoup de choses. Il leur permettrait de donner vraiment du cœur à leur religion. Parce que moi, j'ai lu Jésus, voilà quoi, ça y est, c'est rentré dans mon cœur. Jésus est rentré dans mon cœur. Je reconnais totalement son gospel, quoi. Sa parole, l'Injil. Et l'Injil est abstrait. Ça, c'est très important de savoir que le gospel est quelque chose d'abstrait. C'était pas... C'est, 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 c'est,
C'est comme je vous disais tout à l'heure, je vous expliquais, quand il est rentré dans le temple et qu'il a cassé les tables de la loi, et qu'il leur a dit, vous êtes, et les autres étaient choqués parce que la loi, faut pas toucher, pour les juifs, on touche pas à la loi, et qu'il leur a dit, vous êtes tellement attachés à votre cœur que vous en, à vos lois,
à vos lois
que vous en avez, vous en oubliez votre cœur. C'est exactement ce qui se passe avec les musulmans aujourd'hui. Ouais. Ils sont trop attachés à la loi, au rituel. Il faut pas rater une prière, il faut pas rater un jour de Ramadan, faut pas. Mais quelque part, je parle pas de tous, hein.
Il y a une forme d'intégrisme qui est en train de se
formidable.
Il y a une forme d'intégrisme.
Mais ils sont pas,
Marika,
ils sont pas plus différents que les autres.
Dans l'islam, il y a une forme d'intégrisme qui se développe comme c'est développé dans d'autres religions.
Bah, la religion, déjà, elle apporte l'intégrisme en elle-même.
Alors, dans une, voilà, on est d'accord. Et puis, si on regardait le bouddhisme, c'est pas beau non plus. Faut dire les choses, De toute façon, religion et politique n'ont jamais fait bon ménage. Moi, j'ai adoré le Dalai Lama, mais le jour où il a été aux États-Unis recevoir une médaille de Bush, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il mélange, même si c'est le, il est un maître spirituel, un chef spirituel. Il a bousillé le bouddhisme. D'ailleurs, lui aussi, vous allez hurler chez vous, mais lui aussi, il dit du mal des autres mouvements bouddhistes, alors que, mais on est là pour essayer ce que disait Luther King, quoi. Essayons de nous rapprocher, de partager, d'être les uns avec les autres. Moi, tu me parles de Jésus, moi c'est mon pote, et je me dis, putain, c'est vachement beau qu'une musulmane me parle de Jésus. Et un musulman me parlera de Jésus, c'est vachement beau aussi. Parce que les cathos, ils m'en parlent pas beaucoup de Jésus.
Vous venez jamais chez nous.
Mais non, tu rigoles. Tu rigoles. Alors, j'ai une question. Non, mais qu'est-ce que vous j'aille foutre? Pour dire à la fin, je vous donne ma paix, je vous serre la pince, machin. Mais j'y crois plus, c'est tout. C'est pas, on a besoin, mais je vais, ça regarde personne, ma vie intime ne regarde personne. Je voudrais poser une question à Marika. La sourate 72, qui étaient les djinns? Tu dois connaître cette histoire. Ça, c'est intéressant, elle rentre dans le détail.
Là, on est dans un autre sujet.
Oui.
Les djinns.
Mais on va consacrer encore une dizaine de minutes et puis on prendra congé. Mais, pour répondre à cette question. C'est
7h20.
Eh oui.
Ouais.
C'est passé trop vite.
Mais tant mieux.
Bon, bah, le voile, on recommencera la prochaine fois. Hein. Il manquait encore pas mal de choses à vous dire. Et j'ai pas pu dire le plus important. Je suis allée doucement et malheureusement, j'ai pas dit les choses les plus fracassantes. les djinns. Alors, les djinns, en effet, le Coran, il consacre une sourate entière. Et c'est la sourate 72. Donc, comme vous le dites, j'ai le Coran ici. Donc, que je puisse juste voir les premiers versets. Même si je peux vous expliquer ce que c'est qu'un djinn, hein, c'est pas un problème. On va dire que il y a un nom, c'est les Allemands. Les Allemands appellent, moi je trouve que ça ressemble au djinn, par rapport à moi ce que j'en connais, et ce que le Coran explique des djinns, qu'ils appellent ça les cobalts. Est-ce que ça vous dit quelque chose?
Non.
Ça vous dit rien? Pourtant, il y a déjà eu des films, il y a très longtemps, sur les cobalts.
Mais le cobalt, c'est bleu, Avatar, c'est peut-être...
Explique, vous dites.
Non, j'ai pas de micro.
Moi je parle. Allez, tiens, nous parlons au même endroit.
Avatar, attends, qu'est-ce qui s'est passé là? Voilà, ça marche plus. Voilà, c'est bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, mais c'est ça, un micro pour deux, hein.
Ouais.
On se la garde pour nous, hein.
Donc
là,
alors les djinns, en fait, ce sont des êtres créés.
Et Jean-Christophe rajoute, les djinns aussi sont bleus, mais les djinns, les pantalons.
C'est les génies.
C'est très bon.
D'ailleurs, on a gardé le terme.
Non, mais lui, les djinns, il parle des pantalons.
Ah oui, les djinns.
Mais pourquoi pas? Pourquoi pas?
Mais c'est pas.
C'est un Anglais qui a découvert le djinn, hein.
Oui, mais
et la couleur bleue.
Ouais, peut-être. Mmh. Qui dit, c'est Lévi Strauss.
Mais pourquoi pas, oui.
Aussi. C'est Strauss, hein?
Je te rappelle que Strauss. Le djinn vient de Nîmes en France et que c'est une invention française au départ.
Alors cette sourate 72. À propos du djinn.
Les djinns, c'est des êtres créés par Dieu et qui vivent dans une autre dimension.
Rien à voir avec les anges.
Non, rien à voir avec les anges. Les anges sont créés. Ça, c'est important parce que justement dans la Bible, il y a une petite. Petit détail qui n'échappe à aucun musulman quand il lit la Bible, parce qu'il a lu le Coran avant, qui dit que l'ange, que Satan est un ange déchu. Alors que Satan ne peut pas être un ange déchu parce que dans le Coran, il est bien expliqué que les anges sont créés de lumière. Et que les djinns sont créés de feu. Et que le Satan descend des djinns.
Il est créé de feu. Il ne peut pas être un ange. Donc, il n'y a pas de déchéance d'ange. Satan est vraiment une création à part. Voilà. Il n'est pas créé de lumière.
À ne pas confondre avec lui.
C'est dans la Bible. Hein.
Oui, non, mais c'est bien. Alors, vite, parce qu'il nous reste 5 minutes.
Donc, voilà, c'est pas la peine que je lise mon Coran.
Tu le sais bien.
Ouais, je le sais. Donc, voilà, c'est des êtres créés qui sont créés donc de feu et qui vivent dans une autre dimension que la nôtre, mais qui ont exactement le même organisation que nous. Peuvent tout à fait avoir la même organisation que nous. Il y a des chrétiens, il y a des juifs, il y a des musulmans, il y a des athées, il y a des bouddhistes, ils ont exactement la même le même fonctionnement que nous, sauf qu'ils sont
dans une autre dimension.
Ils ont un degré supérieur à nous.
On pourrait les assimiler à
d'où la terminologie de génie. Quand l'être humain, ouais. Il est interdit, apparemment le contact avec le djinn est interdit. Il nous est interdit de parce que la sorcellerie se fait avec en contact de ces djinns. On peut savoir des choses sur l'autre avec en tant que devin parce que on a contact avec le djinn. Donc c'est pour ça que c'est interdit parce que l'avenir tu dois pas le savoir. Et ils sont juste voilà, ils peuvent vivre dans les mêmes on peut avoir contact avec eux sans le faire exprès. Donc ça c'est les hadiths qui en parlent aussi. Par exemple la nuit, si on va dans la cuisine, c'est souvent dans des endroits d'eau. Où ils se trouvent.
C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on peut les comparer, hein, de très près d'ailleurs avec les elfes, avec les esprits de la forêt, avec les fées, avec les gnomes, avec les lutins, avec les élémentaux.
Avec les extraterrestres.
Et on est d'accord, nous sommes d'accord. Ben voilà.
Tu vois qu'on était arrivé.
Tu savais tout ça, toi.
Allez, je t'en passe encore le micro.
Je te rappelle qu'elle m'avait tout dit l'autre jour déjà. C'est pour ça que moi je préfère l'écouter parce qu'elle dit vraiment des trucs très intéressants. Mais je trouve vraiment que l'on a beaucoup de points communs entre nos deux religions, nos deux religions, et notamment il y a le fait que je fais moi depuis fort longtemps que Jésus est votre prophète et que l'on a vraiment tellement de choses en commun et je ne comprends pas pourquoi, ayant tant de choses en commun, on arrive à être voilà. Il y a vraiment un véritable malaise et je ne comprends pas pourquoi. Il y a vraiment
parce que
tellement
les vrais croyants se comprennent, hein, même avec les juifs. Hein.
Ah, bien entendu.
Les vrais croyants, ceux du cœur, ceux qui sont vraiment qui ont une connaissance, ils se retrouvent. Il n'y a aucun souci de guerre contre tout ça. C'est les intégristes en ceux qui se foutent dans la gueule.
Comment peut-il y avoir des vrais croyants et des faux croyants? Il y a des croyants, il y a ceux qui croient, ceux qui n'y croient pas.
Oui, il y a des gens qui ont la foi, des gens qui croient et qui n'ont pas la foi. Et qui se tue à la voir cette fameuse foi. s'y arrive même pas.
Marika, oui. Musique Ali Farka Touré.
Non, on a déjà fait Ali. Ah oui, c'est.
Non, on a fait l'orchestre de Barbès, oui. Oui. Okay. Alors, qui est-il?
C'est un Malien, Ali Farka Touré.
Un peu comme Tiken Folli, la folie, oui.
Non, ça n'a rien à voir.
D'accord.
Non, c'est du blues malien. C'est magnifique, Ali Farka Touré. C'est ce qui moi j'aime beaucoup parce que d'abord ça fait penser au blues, j'adore le blues, et deuxièmement quand il chante certains chansons qu'il a ressemblent vraiment beaucoup à mes ancêtres, et c'est ça qui est incroyable parce que je suis originaire berbère des Sawira, et là-haut dans la montagne quand je retrouve comme ça les ancêtres et que je vais leur faire des visites de ressources, j'entends la musique, j'entends les gens jouer, parce que nous aussi, on est un peu une famille de griots, dans ma famille, dans mes ancêtres.
Je me disais que tu avais quelque chose des conteurs.
C'est exactement le même. Voilà. Oui, oui. Il y a, chez nous, oui, beaucoup. On compte.
Donc on approche de la fin, mon cher Jean-Claude et ma chère Marika. Donc on vous retrouve la semaine prochaine, jeudi, c'est ça? Même horaire?
On sera tous les deux alors.
Même horaire ou l'horaire d'après?
Pardon?
Même horaire?
Même horaire?
17h-19h, hein. Oui, comme aujourd'hui. Hein.
Moi, je ne serai pas avec vous.
À condition que
cœur.
Tu n'arrives pas à 17h20.
Tu vois, ça c'est le genre de van, je t'avais dit, de pas la faire. C'est vraiment désagréable.
Non, mais je sais qu'elle sera à l'heure.
De toute façon, c'était un véritable plaisir de parler religion. À partir du moment où on parle, je crois qu'on peut tout faire. À partir du moment où on ne parle plus, c'est fini, c'est le gros tintouin. Donc, ma chère Marika, ce fut un grand plaisir. Et je vous retrouve à l'écoute, moi, dès la semaine prochaine.
Merci à tous, en tout cas, d'avoir été présents et pour vos questions.
Est-ce que je peux avoir... Est-ce que nous... C'est pas fini, il reste 2 minutes. Qu'est-ce que tu crois? Tu bosses là jusqu'au bout. Est-ce que tu as une idée de la prochaine émission que tu animeras, qui aura pour nom, c'est quoi votre nom déjà? C'est comment votre nom?
Rappelez-moi votre nom,
oui.
Rappelez-moi votre nom.
Rapproche-toi du micro.
Je peux pas, je suis carrément sur les genoux de Marika, ce qui est profondément agréable. Et donc, moi, je recevrai des gens fort sympathiques qui viennent des médias, des gens qui font des opinions leaders, qui viennent de la télé, qui viennent de la radio, patati patata, pour parler un petit peu de quel a été le déclic de leur carrière, ce qu'ils aiment pas, patati patata, voilà. Dans la joie et la bonne humeur, comme d'habitude.
Super.
Un vrai bonheur. Ah bah tiens.
Donc Marika, nous nous retrouvons jeudi prochain.
Ouais, jeudi où je continuerai mon exposition sur le voile.
De 17h à 19h, je suis en train de tomber mes fiches. Cette première émission pour toi
J'ai eu le trac au début, puis ensuite, après, ça va.
Tu as eu le trac?
Oui.
Sincèrement?
J'ai eu du mal. J'avais l'impression que sans mes feuilles, je ne vais pas y arriver.
As-tu le sentiment que tu pourras parler librement, comme tu aurais beaucoup voulu le faire sur d'autres médias?
Je pense, oui.
Bien près du micro. Ouais.
Là, maintenant que j'ai la parole, c'est là qu'on a un peu du mal à parler. C'est toujours comme ça. Hein. Voilà, mais ça va venir, petit à petit. En tout cas, merci Jean-Claude, vraiment merci beaucoup. Merci Frédéric, ça a été un plaisir, un bonheur aussi. Voilà.
Non mais Marika a raison de me faire remarquer que ça c'est pas son générique, c'est mon générique à moi. Donc le générique de Marika c'est Maluma. Voilà, nous sommes restés un petit peu plus longtemps au-delà de 19h. Nous nous retrouverons avec Marika jeudi prochain de 17h à 19h pour l'émission qu'elle a décidé d'animer sur Radio Étoile du Cœur. Son émission, le titre c'est Islam et spiritualité. Jeudi prochain 17h-19h sur Radio Étoile du Cœur. Cette émission sera rediffusée sur la chaîne. Sur la web radio. Ben oui, puisque c'est non seulement une radio, mais c'est aussi de la télévision, avec des coupures, mais bon, personne n'est parfait. Laissez-nous un petit peu de temps pour nous mettre en place. Je rappelle que ce concept est totalement inédit en France. Il y en a qui diront, mais si. Voilà, nous vous laissons tranquilles jusqu'à la semaine prochaine. J'aurai le plaisir de vous retrouver mardi prochain, 18 septembre. Pour mon émission En suivant les étoiles, je recevrai Agata Sivokovska. Agata Sivokovska. Et puis le 21 septembre, il y aura l'ami Franck Dumouya qui sera en direct
dans le studio de Radio Étoile du Cœur. Le 25 septembre, Camille Armand, pour son livre Chrysalide. Et puis il y aura également très très vite Richard Ketzin qui nous parlera d'alchimie. Olivier Burette qui viendra animer une émission de son cru, histoire d'en parler. Non, ce ne sont pas des petites histoires, c'est l'histoire. Mais ce qu'il ne vous est pas dit sur l'histoire à l'école. Bonne soirée.